précision pour les nouveaux, je demande qu'un seul luxe, c'est le silence. Et un silence assez rigoureux, parce que je suis du caractère chauve-souris, c'est-à-dire que j'envoie des ondes. Et si vous êtes dans un coin en train de dire passe-moi le sel, ça diminue mon tonus énergétique. Voilà. Donc c'est le seul luxe que je vous demande. Alors, on est dans une série d'apologétiques, c'est-à-dire que c'est une partie de la réflexion chrétienne qui, comme le nom l'indique, pour ceux qui ont des vagues souvenirs de leur grec, consiste à défendre les titres du christianisme en face de la raison. Et donc c'est une partie de la théologie, donc ça c'est fait par des théologiens, par des gens qui ont la foi, mais ça s'adresse aussi à des gens qui ont la foi, mais on insiste au maximum sur le caractère raisonnable des choses. Donc c'est très utile pour enraciner notre foi et nous rendre capables de répondre à d'éventuelles objections, et également nous rendre plus performants pour rendre compte de l'espérance qui habite en nous. Alors, on a commencé une série cette année, donc le titre général c'est « Le christianisme est-il crédible, c'est-à-dire est-il digne de foi ?» On a fait deux séances d'introduction sur ce qu'est l'apologétique et ce qu'est la crédibilité, qu'est-ce que c'est que d'être crédible. Et ensuite on a attaqué, point par point, des questions très importantes. Au troisième café caté, nous avons parlé de l'historicité des évangiles, c'est-à-dire est-ce que les évangiles sont un document qu'on peut considérer comme historique selon les critères profanes. La réponse était oui, avec une surabondance de raisons tout à fait exceptionnelles pour ce texte qui est surclassé dans cet ordre-là par rapport à tous les autres écrits profanes ou sacrés. Donc le christianisme crédible, ça c'était notre conférence de décembre, et en janvier, on a abordé ce qui constitue, si vous voulez, la première des trois grandes preuves du christianisme, à savoir les prophéties. Est-ce que les prophéties établissent que le Christ, Jésus de Nazareth, est le Messie? Bon, ça c'était le premier grand volet. Maintenant on aborde le deuxième, qui est la question des miracles. Est-ce que les miracles établissent que Jésus est, disons, au moins l'envoyé de Dieu, et on précisera, établissent même sa divinité? Vous verrez dans le résumé pourquoi je distingue un peu ces deux choses-là. Donc c'est la deuxième étape. Mais alors, ce qui est important de voir en apologétique, je le rappelle parce que, je vous le dis pour ceux qui n'ont jamais entendu ça, il y a une convergence des voix. Vous avez Pascal, par exemple, Blaise Pascal, dont certains d'entre vous ont dû vaguement entendre parler. Blaise Pascal insiste beaucoup sur la question des prophéties. Et c'est vrai que pour lui, c'est le plus gros des arguments. Mais en même temps, il montre l'importance des miracles et l'importance de la doctrine. La doctrine, on en parlera au mois de mars. Donc ces trois éléments réunis, les prophéties annoncent quelqu'un, ce quelqu'un c'est Jésus de Nazareth, il réalise les prophéties, il fait des miracles qui établissent qu'il a un titre à parler comme envoyé de Dieu, et il donne une doctrine qui est tellement exceptionnelle et qui va avoir tellement d'impact que par elle-même, elle confirme une origine surnaturelle, surhumaine, divine de ce qui vient mettre sur la terre le christianisme. Ça a été les trois éléments, prophétie, miracle et doctrine. Et c'est vrai que doctrine, oui, c'est peut-être le plus touchant, hein, mais il faut absolument quand même parler des miracles. Et j'insiste aussi pour faire remarquer qu'il y a convergence des arguments. On terminera au mois d'avril sur la résurrection comme miracle suprême et comme confirmation ultime. Et puis au mois de mai, le frère Cespas fera un topo sur le sueur de Turin, un peu, pas en détente, mais enfin comme cerise sur le gâteau, bon, comme relique authentique de la passion. Mais vous voyez, il y a une montée donc vers la résurrection, mais il faut bien, surtout pour ce sujet de ce soir, savoir qu'on est plus ou moins touché par un argument. Et même on peut carrément être révulsé par pour des raisons X ou Y, par un des arguments qui sont mis en avant par l'apologétique. Ça ne veut pas dire que cet argument est faux, ça veut dire qu'il est peut-être mal présenté, ou qu'on ne l'a pas compris, ou que nous-mêmes, ce n'est pas notre tasse de thé. Mais il ne faut pas trop se forcer, si vous voulez, à trouver tout formidable. Alors, c'est pas trop la tendance de votre génération à tout approuver, mais un esprit critique parfois assez développé. Mais c'est pas très grave si on n'est pas touché, par exemple, par tel ou tel miracle, à mon avis. Il y a une convergence des arguments. Le tout est de retenir la chose suivante. Le christianisme est une religion, et même on va le voir, la seule religion, qui prétend être fondée en raison naturelle, accessible de soi à la raison naturelle, par une convergence d'arguments. Donc c'est quelque chose d'extrêmement massif. Alors ça, c'est un fait qu'on va établir encore à nouveau ce soir pour les miracles, en comparaison rapide par exemple avec l'islam, mais très rapide. C'est un fait massif, qui a été rappelé par Karl Ratzinger en l'an 2000 quand il a fait une conférence ici là à la Sorbonne, où il a comparé les différentes formes de religion, et donc il les a rappelées, historiquement en s'appuyant sur des auteurs classiques latins et grecs, et il a dit l'originalité du christianisme c'est la religion de la vérité, c'est qui prétend être dans la vérité et qui prétend être accessible, au moins qui a une voie qui s'ouvre vers elle par la raison naturelle. Donc ça c'est extrêmement important. Moi existentiellement je peux vous témoigner du fait que ma conversion, puisque malheureusement j'ai décroché de la foi de mes parents pendant disons 5-6 ans, ma conversion a été essentiellement favorisée et ouverte par cette prétention du catholicisme à s'appuyer sur un chemin raisonnable. Hein, l'existence de Dieu qui est prouvée par la métaphysique, et puis ensuite la validité de la révélation chrétienne qui est appuyée par des arguments comme ceux des miracles. C'est la grâce qui convertit, mais ça m'a ouvert vraiment le chemin par rapport à d'autres choses que j'avais moi-même étudiées d'un peu près, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, qui me paraissaient beaucoup moins cohérents au regard de la réalité. Donc c'est une chose importante, tout le monde n'est pas converti par des arguments, habituellement c'est même peut-être pas la majorité, mais c'est très important de les avoir, soit même pour ne pas perdre la foi, surtout aujourd'hui, et puis parce qu'il y a quand même des gens qui cherchent la vérité. Donc cela, il faut avoir aussi un réservoir d'idées, de propositions à leur soumettre en leur montrant que être chrétien, ça tient, comme on dit vulgairement, et qu'il y a donc une cohérence, si vous voulez, dans le christianisme, qui se perçoit de mieux en mieux. C'est pour ça que je vous remercie d'exister, c'est quand même sympa. Si personne ne vous aime, ben moi je vous aime d'être là, parce que vous m'obligez à réfléchir à des trucs qui m'intéressent. Bon, voilà. Et qui peut-être vous intéressez, vous, puisque vous êtes là ce soir. Donc, le miracle. Alors, il faut d'abord dire un mot, la notion de miracle, et ensuite on insistera sur le fait que les circonstances sont capitales et décisives dans le miracle pour discerner le vrai miracle, des imitations et des contrefaçons, des prodiges diaboliques ou des illusions, etc. Et puis ensuite on terminera en montrant que le Christ a fait des vrais miracles qui en effet confirment qu'il est ce qu'il prétend être, à savoir l'envoyé de Dieu et le Fils de Dieu. Vous voyez le schéma de la progression. Qu'est-ce qu'un miracle, hein? Comment discerne-t-on un miracle? Et puis le Christ a-t-il fait des miracles à l'appui de ce qu'il disait « Je suis envoyé du Père ». Ces trois choses-là sont toutes les trois importantes. Alors, je vous ai mis une définition, donc vous avez le résumé. Dans la définition, le miracle est un fait produit par Dieu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être un peu comme la signature de Dieu sur une action des hommes. C'est un fait produit par Dieu dans le monde et dans le monde sensible. Ça, c'est très important d'insister. Il y a des choses qui sont tout à fait remarquables, comme à la messe, il y a la transsubstantiation. Le corps devient, le pain devient le corps, le vin devient le sang du Christ, mais ça ne se voit pas. Alors vous pouvez appeler ça miracle, c'est joli, si vous appelez ça miracle, techniquement ce n'est pas un miracle. C'est une œuvre accomplie par la puissance de Dieu, en dehors des voies habituelles, mais ce n'est pas un miracle parce que le miracle a cette caractéristique d'être une voie pour la raison, et donc comme l'homme est sensible, d'être sensible. Et donc ça fait être sensible, hein, et donc on ne classe pas normalement les doctrines dans les miracles. C'est pour ça que l'unique argument apologétique, enfin quasiment semble-t-il un des rares arguments apologétiques mis en avant par certains musulmans, c'est la beauté du Coran qui est inimitable. Alors même si on admet que c'est un effet très beau, on peut éventuellement discuter ça, mais peu importe, ça suffit pas, parce qu'on peut aussi dire que la Divine Comédie de Dante ou les tragédies de Sophocle est aussi inimitable, c'est un caractère absolument singulier, un éclat de beauté que personne ne peut reproduire que l'auteur qui l'a fait, donc c'est quand même un argument qui n'est pas strictement d'ordre miraculeux, parce que vous allez voir, le miracle est un fait sensible qui est au-delà des forces de la nature. Donc ça c'est la clé du problème, parce que ce qu'on a en face de nous est au-delà des forces de la nature. Alors il y a deux places là-bas, c'est quand même dommage que ça y est par terre, hein. Sans être au-delà des forces de la nature, c'est sympa d'être assis. Bon, au-delà des forces de la nature, et comme il est au-delà des forces de la nature, c'est un signe, vous voyez. Le miracle, ce n'est pas une démonstration, c'est une preuve sous forme de signe. C'est-à-dire qu'il nous renvoie à l'auteur de la nature. Donc la question du signe a une énorme importance. Et s'il y a une crise de la théologie du miracle, c'est qu'il y a une crise du signe. Et s'il y a une crise du signe, c'est qu'il y a une crise de la métaphysique. On ne se rend pas compte que l'homme est fait pour saisir l'être au travers du sensible. Et c'est parce que l'homme a son intelligence qui est renseigné par son corps et par les sens, mais qui va au-delà, qui peut discerner une signification dans le monde, qui peut voir que le monde reflète un ordre, et qui peut aussi discerner si une chose est une parole de Dieu ou ne l'est pas. Donc c'est un signe qui renvoie à l'intervention de l'auteur de la nature. Donc il faut mettre tout de suite de côté des choses qu'on appelle parfois miracles, dans un sens tout à fait impropre, des événements naturels extraordinaires, bon, des choses très rares, bon, qui peuvent être des événements que, astronomiquement très, très improbables, bon, pas des miracles. Les prestiges diaboliques, alors ça c'est plus inquiétant parce que les esprits purs, il y a des anges, il y a des démons, hein, qui sont des êtres existants, des créatures limitées, et qui ont donc une puissance spirituelle, qui fait donc des choses auxquelles on n'est pas tellement accoutumé, mais en dessous de la puissance de Dieu, bien sûr. Et donc il y a des prestiges diaboliques qui peuvent revêtir plus ou moins des apparences de miracles. Hein. Mais on va les discerner par l'ambiance morale et l'impact positif ou négatif sur la religion, la moralité. C'est pour ça que les circonstances sont décisives. Donc les prestiges diaboliques ne sont pas des miracles. Et les effets divins ordinaires, je vous ai parlé de la transsubstantiation qui est extraordinaire, mais la création du monde, c'est un effet que Dieu seul peut produire. Ou le passage à l'état de grâce, quand vous avez un bébé qui est baptisé, ou une absolution donnée sur un péché mortel, eh bien il se passe un truc incroyable, c'est que la vie de Dieu descend dans une âme. Et ça, Dieu seul peut le faire. Mais comme c'est invisible, c'est pas un miracle. Appelons-le miracle si on veut, mais c'est une image. Le miracle, c'est un truc qui va nous renseigner pour aller dans une direction. Donc il faut que je puisse le voir. Et puis, il y a une chose qu'on appelle parfois miracle aussi, ou qu'on rapproche des miracles, sont les faits providentiels, vous voyez. C'est-à-dire que vous êtes dans une circonstance difficile, vous priez beaucoup pour savoir ce qu'il faut faire, et puis tac, le jour de la fête de votre fin, vous trouvez la solution parce qu'il y a quelqu'un que vous rencontrez dans le, je sais pas où, dans le train en allant à Lourdes, bon, enfin, des coïncidences, et les gens pieux, quelquefois, ils foisonnent de coïncidences comme ça, ils sont sûrs d'avoir épousé la bonne personne parce qu'ils l'ont rencontré au National à Lourdes. Ouais, c'est bien, il y a plein de gens qui se marient au National à Lourdes, mais n'allez pas uniquement pour ça quand même. Ça peut être un élément accessoire. Mais... Alors, il y a plein de fêtes providentielles, et les gens pieux sont quelquefois assez fatigants, parce que moi, je suis pas trop dans le genre apparition privée, machin. Je suis pas contre, hein. Précisément, je peux pas être contre. Mais... je suis pas tellement motivé, disons, je suis très fait que. Il y a des gens qui vous saoulent avec des fêtes providentielles à longueur de journée, et il y en a. Et ils sont utiles, mais c'est pas du miracle, oui. Si vous priez intensément et que vous avez la réponse à un moment particulier, je crois que c'est un message de Dieu qui vous adressait à vous. Mais, donc c'est un truc qui vous est pour vous. Mais comme c'est pas sensible et que vous pouvez pas le transmettre, c'est pas un miracle. Et donc il y a des choses comme ça, voilà. Alors dans la Bible, par exemple, le chapitre 4 de Saint Jean, chapitre 2 des Actes, on appelle les miracles toujours dans l'Ancien et Nouveau Testament, on emploie deux mots, hein, grec, pluriel, semeia et terata. Terata, ça veut dire le prodige, l'œuvre de puissance, c'est le premier aspect du miracle, ça dépasse la puissance de la création. Voilà. Et semeia, c'est un signe. Les deux doivent être absolument unis. Mais, autrefois, on insistait un peu trop dans la politique classique sur la force, si vous voulez, Dieu est tout puissant, donc il fait des miracles. Bon, c'est vrai. Mais ces miracles ont toujours un sens. Ce sont des signes. Alors aujourd'hui, les modernes n'insistent plus que sur le signe. Vous voyez. Mais la vérité est catholique, hein. Comme dit quelqu'un qui s'appelle Joseph Ratzinger, la Bible est catholique, et la vérité tient tous les bouts. C'est-à-dire que le miracle est à la fois une œuvre de puissance, ça dépasse la nature, mais pas pour se marrer, pas pour dire je suis plus fort, je t'écrase, etc. Et si on dirait que je gagne et que tu perds, comme les gamins quand ils jouent sur la cour de récréation, ou dans vos jeux électroniques débiles que j'espère vous avez abandonnés, il y a toujours des destructions, etc. Le miracle, c'est pas pour détruire des mecs qui nous emmerdent, hein, ça c'est clair. Alors c'est des signes, pour ça on va en parler. Alors il y a différentes espèces de miracles, je vais passer assez vite. Hein. Les plus gros, c'est les miracles, si vous voulez, qui en fait produisent des choses que la nature ne peut pas produire. Par exemple, la glorification du corps, le corps de Jésus ressuscité, vous pouvez faire toutes les tests de physique nucléaire que vous voulez, être spécialiste en biologie moléculaire, et passer 500 ans dans un labo avec vos, en vous faisant congeler pour pouvoir trouver la formule quand vous serez à la terre, et vous ne trouverez pas, je peux vous le dire tout de suite, n'essayez pas. Bon. Ça dépasse toute la compénétration des corps, hein, quoi qu'il en soit des découvertes de la mécanique quantique, il n'y a pas de compénétration au niveau biologique, le corps peut pas... euclidien, disons, de notre univers, le corps ne peut pas se compénétrer, c'est complètement au-dessus des forces de nature. Ou la bilocation réelle, des choses comme ça. Bon. Il y a des choses qui dépassent complètement, c'est des effets impossibles à produire. Et il y a d'autres choses, c'est plutôt, c'est pas la vie, par exemple, la vie naturelle. Elle est produite tous les jours, dès qu'il y a un mouton qui est engendré, il y a une vie qui arrive. Hein. Donc la vie naturelle vient bien par des causes naturelles. Mais que la vie soit dans un mort, c'est ça qui est bizarre. C'est pas tellement classique, enfin, je sais pas si vous en avez vu, vous. Beaucoup de morts ressuscités, Mais ça s'est arrivé, justement, le Christ en a ressuscité 3, Saint Vincent Ferrier en a ressuscité une demi-douzaine, etc. Mais c'est constaté hein, par des gars, bon, et par des ennemis en plus. Bon. Mais c'est quand même bizarre que la vie vienne dans un sujet qui justement est mort. Ou alors la vue chez un aveugle. Un homme qu'on bien constitué, il voit. Donc la vue est un effet naturel. Mais que la vue revienne chez un aveugle, et quelquefois sans aucun organe, d'ailleurs, comme c'est arrivé dans certains miraculés du Padre Pio, bon, c'est quand même un petit peu étonnant. Pas surexcitant, il ne faut pas non plus courir après ces trucs-là, parce que c'est beaucoup moins important que la vie de la grâce. Mais si ça vous aide à trouver de la vie de la grâce, c'est bien. Si ça vous fait brère, et bien vous le laissez. Vous voyez. Moi, je suis quand j'étais agnostique, j'avais une tante qui me parlait tout le temps de Lourdes, et ça me mettait en éruption. Quoi, parce que d'avoir un ciel propre pour Lourdes, je vais continuer à ne pas croire. Quoi. Là, j'avais tort, hein, je m'en suis confété, rassurez-vous. Donc j'avais pas raison d'être comme ça. Mais vous voyez, quelquefois, quand vous êtes trop sur miracle, il y a machin. Non. Il y a des voies, il y a des gens qui vont monter par là, il y a d'autres, ben l'exemple qu'on m'a donné encore récemment, c'est un mec en Russie, le communiste se casse la gueule, le mec commence à lire l'évangile, et bonsoir. Mais c'est vrai ce truc-là. Le type, et puis après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit autour de lui une église nationale. Il dit, oh, savez, si quelque chose est vrai, c'est international. Donc il se fait catholique, et il est prêtre catholique actuellement. On m'a dit qu'hier soir son cheminement. Et il y en a comme ça, il y en a un bon paquet. Hein. Donc ça, c'est la force de la doctrine, si vous voulez, aidée par la grâce, parce que c'est la grâce la plus importante. Mais donc, il y a un autre gars, il y aura un miracle, bon, à Lourdes, où il y aura quelque chose, ou la lecture des miracles de Jésus qui va le motiver. Bon. Et puis, il y a d'autres miracles qui sont des miracles, comme ceux de Lourdes, très souvent, des miracles quant au mode. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on arrive à guérir de maladies épouvantables, mais habituellement, c'est 6 mois de traitement, ou 6 ans, etc., etc. Et là, à Lourdes, la guérison, par exemple, constatée par Alexis Carrel, je crois que c'est lui, elle était complètement en une demi-heure. Et donc, lui, d'abord, il a retrouvé la foi à cause de ça. Mais bon, alors là, c'est quand même un peu étonnant que ça se passe si vite. Là. Alors voilà, les espèces, il y a différents types de miracles. Et justement, c'est très, très varié. Hein. Et Jésus a fait toutes les espèces de miracles, et faciles, difficiles, et tout. Hein. Comme le général Alcazar, là, de plus en plus difficile. Et puis, se ressusciter soi-même, je ne vous conseille pas d'essayer. Hein, parce qu'une fois que vous êtes mort, allez-y un peu. Hein. Et en plus en prédisant, bon alors, d'accord. Alors voilà, alors la finalité c'est presque plus important encore que la définition. À quoi sert un miracle? Et bien ça ne sert pas uniquement à se marrer, c'est vrai que ça met l'ambiance. Hein, quand il n'y a pas de miracle, non mais chez les juifs, pendant 3 siècles avant Christ, on se faisait vraiment, on s'ennuyait, quoi. Vous voyez comme je suis académique, là. Il y a Mohamed Christophe qui me regarde, donc après j'ai peur qu'il me dénonce. Alors, donc on s'ennuyait parce qu'il n'y avait pas de prophète, et le prophète c'est un mec qui met de l'ambiance. Parce qu'il est complètement échevelé, il fait des trucs imprévisibles, et tout le monde valide parce qu'on sent qu'il dit la vérité. En général, il termine zigouillé par le roi, parce que le roi n'aime pas trop ce qu'il dit, donc il ne faut pas aspirer à la prophétie. Bon. Mais comme il n'y a plus de prophète, tout le monde a été content quand Jean-Baptiste s'est pointé. Non mais c'est vrai, parce qu'on se cassait les pieds avec des barbus qui étaient là, à pinailler sur des détails absolument hallucinants, comme vous trouvez encore chez des juifs ou des musulmans pratiquants, qui sont des détails matériels, presque matérialistes. Alors c'est vraiment, on est assommé, est-ce que l'œuf pondu le jour du sabbat peut être mangé le lendemain, quoi. C'est le problème. Non mais attendez, il y a un traité de la Mishnah là-dessus, bon. Quoi. Alors c'est pas, je ne veux pas ridiculiser tout le judaïsme actuel parce qu'il y a des très grandes choses. Mais là, avouez qu'il y en avait un peu marre, et on comprend que Jésus un peu secoue les pharisiens. Alors la finalité, c'est de confirmer la vérité. Et c'est pour ça que le miracle est grand. Et c'est pour ça que je vous remercie, parce qu'en préparant ce cours, ça me demande quand même certaines préparations. Ouais. C'est tout dans la tête, mais enfin il faut aussi agiter un peu la sauce. C'est que c'est magnifique, quoi. Et l'argument donné par saint Thomas, alors pour les intellectuels de l'Institut de philosophie comparée, et même là, et d'autres, les philosophes qui m'écoutent, il y a la référence détaillée à la somme contre les gentils, qui a été écrite par saint Thomas, à la demande de Raymond Peñafort, pour les missionnaires qui allaient en Espagne convertir les musulmans et les juifs. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas froid aux yeux, il n'a pas la foi du Christ, il faut avoir la foi du Christ pour être sauvé, donc voilà mes arguments, donne tes arguments, et on se disputait à Cordoue, à Bagdad, etc., et ça chauffait, ça ne terminait pas toujours très bien, mais au moins, il y a de l'ambiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des dialogues, des machins, qui terminent quelquefois en autre boudin, bon, on se tape un peu moins dessus, c'était peut-être une bonne chose, mais au point de vue de la vigueur intellectuelle, c'est faible, surtout du côté de l'islam, la voie de l'interprétation est fermée, et donc on a souvent affaire à des gens butés. Mais du temps de saint Thomas, ce n'était pas le cas. Il y avait des intellectuels de haut niveau, chez les juifs, chez les musulmans, et donc il y avait un débat de haut niveau, et donc il a donné un livre magnifique qui s'appelle « La somme contre les gentils », qui est entièrement traduit en français, et qui donnait aux missionnaires, voilà ce qu'un catholique doit savoir quand il va en contact des juifs et des musulmans, et également des arméniens, des orthodoxes, etc. Bon. Alors c'est confirmer la vérité. Et alors là, il y a une citation que vous lirez dans le RER, ou dimanche en vous levant à midi et quart, midi et demi, pour ceux qui se lèvent tôt, Et donc, vous pouvez, avant d'aller à la messe du soir, parce que vous êtes énergique. Bon, alors, je vous lirai ça, c'est confirmer une doctrine. Parce que si vous voulez, le but, en fait, c'est pas intéressant. Il y a un argument qui, moi, en tant qu'astrophysicien, me plaît pas mal. Il explique que toutes les substances et tous les changements substantiels, donc si vous voulez, toutes les forces, tous les champs magnétiques, tout ce qu'on peut imaginer en traduction moderne, a pour but l'âme de l'homme. Le monde entier est anthropocentrique. Si vous et c'est vrai que les astrophysiciens modernes, certains d'entre eux, ont établi, ont validé, à mon avis, avec des arguments assez justes, qu'on appelle le principe anthropique, avec un jeu de mots. Anthropique écrit comme on en crée anthropos en grec, qui semble dire que le monde, les constantes fondamentales de l'univers, au point de vue physique, si vous voulez, qui sont celles qui vont déterminer après les combinaisons chimiques et compagnie, sont réglées pour permettre l'apparition de quelqu'un qui va constater ces choses-là. Donc c'est une démarche scientifique assez intéressante, parce que vous déréglez les constantes, il y en a une demi-douzaine, une dizaine, si vous les déréglez de 1 sur 10 puissance plein de trucs, ça marche plus. Parce qu'on n'arrive pas à la synthèse carbonique, donc c'est extrêmement intéressant. Alors, évidemment, les matérialistes tombent là-dessus à tour de bras, mais je trouve que c'est très sympa le principe anthropique. Mais Saint Thomas est en avance sur le principe anthropique, parce qu'il dit tout dans l'univers, le minéral est pour le végétal pour l'animal, et l'animal pour l'homme, et le corps de l'homme pour son âme. Et comme l'âme est faite pourquoi? Pour la vérité. Qu'y a-t-il d'extraordinaire que Dieu, qui a fait les minéraux, les végétaux, etc., enfin, les acides, les oxyribonucléiques et tout ce que vous voulez, les quasars et tout ce qu'on peut imaginer, les exoplanètes, on vient d'en trouver une énorme et tout près de l'étoile, on ne pense pas qu'elle a été. Il a fait tout ça. Alors qu'y a-t-il d'extraordinaire qu'il fasse une exception pour montrer aux esprits qui sont là-dedans et qui sont le but de la matière où est la voie de la vérité? Il n'y a rien d'invraisemblable. Vous voyez, le problème, en fait, c'est l'existence de Dieu et les attributs qu'on lui donne. C'est un problème métaphysique. Enfin, pour moi, ça a été vraiment le problème clé. Et une fois que j'ai retrouvé, si vous voulez, naturellement la voie vers l'existence de Dieu, je me suis dit, bon, il n'y a pas photo, dans ceux qui affirment que Dieu existe, c'est les cathos qui dépassent tout le monde de 6 chevaux d'avance, à mon avis, enfin, après études et analyses artistiques, politiques et philosophiques. Donc, si Dieu existe, vous voyez, c'est un pur esprit qui est distinct du monde, il a toutes les qualités qu'on peut trouver chez tous les esprits, il est bon, il est provident, il aime les gens dont il s'occupe, etc. Donc ça, c'est déjà beaucoup, c'est une théologie qui est déjà naturelle, qui est déjà assez forte. Qu'y a-t-il d'étonnant que ce créateur du monde se passe de ses lois naturelles par exception? Allez, il ne va pas changer E égale MC2, oui, c'est égal MI GT2, hein. Il ne va pas tout foutre en l'air qu'on peut faire passer des diplômes, emmerder les élèves dans les trucs comme ça. Ou bien même se servir à faire de l'électronique et d'autres trucs qui dirigent notre monde aujourd'hui. Bon. Non, il ne change pas ça. Il y a une constance des lois naturelles, mais exceptionnellement, il produit directement un effet qui n'est pas dans l'ambitus de production des lois. Voilà. Il le fait lui directement, tout simplement parce que aucune loi naturelle ne pouvait fonctionner si en dessous, il n'y a pas la force métaphysique de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'admettent pas le miracle. Parce qu'ils ont une mauvaise métaphysique, vous voyez. Ils sont complètement bloqués dans le phénoménologique, dans l'observation. Moi, je me souviens quand je faisais un certificat, alors c'est d'astrophysique, figurez-vous. C'était un bon TD, parce qu'avec des cinglés comme moi, vu qu'on choisissait l'astrophysique parce que ça servait à rien. Donc c'était ça qui était sympathique, quand tous les épices et les commerciaux et les autres allaient faire des métiers rentables, nous on faisait des trucs qui servaient à rien. Donc on était des idéalistes, gauchistes, cathos, etc. Et alors il y a un de mes gars qui me dit, bon attends, moi j'étais déjà cathos à ce moment-là. Et alors il me dit, bon attends, Dieu j'y croirai quand tu me fabriqueras une machine qui se fabrique elle-même. Et c'est magnifique de confusion, oui. Parce que le gars il est complètement dans l'ordre, si vous voulez, phénoménologique, dans l'ordre précisément de l'être que nous observons. Évidemment, c'est un peu contradictoire, la machine qui se fabrique soi-même, alors que Dieu, si vous voulez, il va l'être, mais on l'a dit quand on a parlé de son existence, il va l'être à un autre niveau. Quand je dis je suis, et quand je dis Dieu est, toutes ces choses-là sont vraies, mais c'est beaucoup plus vrai pour Dieu que pour moi. Dieu, il est infiniment sans aucune limite, moi je suis déterminé à l'humanité, et à l'humanité de Louis-Marie de Vinière, qui est quand même tout aussi très, très limité, très effrayant. On s'appelle ça quand on a mal aux dents ou mal aux dos. Ou quand on est énervé, ce qui est aussi encore, qui peut arriver aussi quelquefois. Et donc, vous voyez, c'est comme un truc, j'ai de l'être, mais j'ai de l'être très, très, quand même très déterminé. Est-ce que Dieu, il est un être infini qui réalise toutes les perfections des êtres qu'on trouve ici? Et donc, si vous voyez, il n'est pas sur le même plan que nous. Si vous voyez, il nous entoure, il nous soutient, il nous dynamise, il nous crée, il nous fait exister. Plus Dieu existe, plus j'existe. Ce que dit Romano Guardini. La définition de Dieu, c'est l'être qui répond à la chose suivante. Plus je m'ouvre à son action, plus je suis moi-même. Alors les gens croient que Dieu c'est un espèce de concurrent, un super balèze qui est à côté, qui dit esclave, adore-moi, parce que zéro, tout faux, hein. C'est pas ça. Donc, Alors, donc, voilà, ce Dieu qui est, veut nous orienter au vrai, s'il veut nous parler, il va faire signe qu'il parle. Il ne va pas commencer un discours obscur, brouillé, etc. Non, il va dire, attends, si j'envoie un messager, je vais lui donner de quoi s'accréditer. Donc, ce n'est pas du tout absurde. Alors, il y a des finalités secondaires, mais qui se rapportent à la vérité. Ça m'a beaucoup plu quand j'ai retravaillé cette question-là. Par exemple, Jésus fait du bien en guérissant. C'est pour faire du bien. Mais c'est pour montrer que Dieu est bon, toujours. Jésus fait un miracle pour appuyer une foi un peu chansante, un début de foi. Pourquoi il fait ce miracle? Pour cette personne, mais pour que tous ceux qui verront l'évangile réfléchissent à la valeur de la foi chez tout le monde. Jésus dit, il y aura le feu du ciel qui va... Enfin, Dieu dans l'Ancien Testament, le feu du ciel descend sur Sodome et Gomorre. Justice punitive, c'est assez rare dans le Nouveau, mais enfin dans l'Ancien, il y en a encore quelques-uns. C'est pour montrer la justice de Dieu qui est éternelle, qui a un enfer, etc. Donc il y a toujours une vérité jointe au fait concret. Par exemple, pour montrer la sainteté, Dieu parfois permet que certains, qu'on appelle les thaumaturges, des toubibs, acupuncteurs ou médecine parallèle. Hein. Les thaumaturges, c'est ceux qui font des miracles. Thauma, thaumatia en grec, c'est le miracle. Et donc, Dieu permet la sainteté, pour montrer la sainteté du thaumaturge. Par exemple, Saint Séraphine de Sarov, c'était un ours qui lui apportait sa bouffe dans sa forêt. Non, ça lui apportait la bouffe, sinon il aurait mangé ses haricots, mais c'était aussi assez spectaculaire pour les gens. Du coup, les gens venaient voir le Sarov et avouer leur péché et se convertissaient. Donc, mais c'est pour montrer quoi? Que Saint-Esprit habite dans l'âme de Saint Séraphine. Enfin, oui, je suis très œcuménique, parce qu'en fait, Saint Séraphine, techniquement, il était dans l'orthodoxie. Il était à l'époque, c'était au XVIIe siècle. Il a comme tous les caractères sont métiers de la sainteté, et Dieu peut très bien faire des miracles pour la partie de vérité eucharistique qu'il y a dans les groupes séparés de l'Église. Mais le but, c'est pas simplement ou le corbeau qui apportait un morceau de pain à Saint-Antoine, c'est pas simplement un problème d'attendance, hein, c'est clair. C'est de montrer que Saint-Esprit habite dans tous les âmes des saints. Oui. Donc il y a toujours une vérité universelle. Oui. Alors maintenant, est-ce que c'est possible? Parce que là, évidemment, le gros truc contre le miracle, c'est de dire, le miracle, c'est impossible. Bon, d'accord, si le miracle est impossible, le problème est terminé. Hein, Alors, est-ce que c'est très malin de dire que le miracle est impossible? Et en fait, c'est une castration de la raison. Mais c'est une auto-limitation de la raison. Pour dire que le miracle est impossible, il faut affirmer qu'il n'y a pas de métaphysique. Que l'intelligence ne saisit pas le réel. Que l'intelligence ne saisit que les apparences, les phénomènes, qu'elle est condamnée à la raison résonnante, à la physique, à la chimie, et encore pire à l'électronique et au machin comme ça, à l'informatique, voire au commerce, enfin que sais-je, voilà ce qu'elle fait. Elle fait ça du soir au matin. Vachement intéressant, enfin c'est intéressant. Hein. D'accord. Mais quand même, attendez, en dessous de ça, il y a quand même mieux, non? Et la poésie, et l'art, et l'amour, tout ça c'est du physico-chimique. Et le coucher de soleil sur l'Adriatique, et le pain de sucre de Rio, et tout ça, et la baie de ce ne sais quoi, enfin c'est des toutes belles choses que vous avez vues dans votre vie, tout ça c'est pourquoi? C'est pour rien, c'est beau. Et ça, qu'est-ce qu'il saisit? C'est pas les vaches qui le saisissent. Hein. Un animal est incapable de saisir la beauté, quoique les vaches font du meilleur lait si vous faites écouter la musique classique que du hard rock. Mais bon, ça c'est une incidence qui serait trop longue de développer. Mais il y a que nous qui saisissons la beauté. Bon, donc, si notre intelligence peut aller vers l'être, alors le miracle peut éventuellement avoir lieu. Si vous décidez que notre intelligence est enfermée dans le monde, eh bien d'accord, ça a lieu. Hein, va te coucher, va regarder ton machin, ton film, jouis et crève, disait Pascal. Ceux qui croient que le but de l'homme est le plaisir, qu'il jouisse et qu'il crève. Pas franchement sympa. Hein. En fait, c'est comme ça qu'il parlait aux libertins du 18e. Bon, il a quand même eu un certain impact. Donc, si c'est ça le but, d'accord, bon, le gars qui dit ça, le gars qui se barricade dans l'idée que sa femme est un tas d'électrons, hein, ou de quarks ou de pions, enfin, même si vous faites de la théorie des cordes, vous développez tout ça, c'est un peu mieux. Mais si vous êtes certain de ça, les gars, bon, vaut mieux prendre tout de suite le taxi, hein, parce que, à mon avis, je vais faire que de vous agacer, mais c'est peut-être ce qu'il vous faut, d'ailleurs. Bon, alors, non, si on ne ferme pas, c'est différent, vous voyez. Si on ne ferme pas, parce que le miracle n'est pas fait pour démontrer l'existence de Dieu. Parce que beaucoup de gens disent, moi je crois à Dieu, j'ai vu le miracle. Non, le miracle n'est pas pour but de démontrer l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, le ciel étoilé, est là pour nous en parler. Elle n'est pas évidente, mais elle est certaine. Elle n'est pas évidente, contrairement à ce que disent certains musulmans, mais elle est certaine, c'est différent. Même si beaucoup de gens ont du mal, c'est certain. L'existence d'un premier principe du monde. Les miracles ne sont pas faits pour ça. Quoique par accident, il y a des gens qui sont athées, qui trouvent la foi, qui ont bien miracle. Bon. Et de soi, le miracle, c'est pour dire, s'il y a un Dieu que la raison naturelle, l'intuition naturelle connaît plus ou moins, oui. Appuyé sur la métaphysique, on voit que ça marche. Bon. S'il y a quelque chose comme ça qui existe, eh bien, il peut me parler. il peut, il a le droit de me parler, et il fait une intervention exceptionnelle sur des lois hypothétiques. Vous voyez, parce que pour dire que souvent les gens disent le miracle est impossible, parce que les lois de la nature sont absolues. Alors ça maintenant on le dit moins depuis la physique quantique et la relativité générale, grâce à Dieu. Mais c'était le gros argument entendu du déterminisme du 19e, c'est tellement immuable que Dieu est ligoté par l'univers, vous voyez, et il ne peut pas bouger là-dedans. S'il bouge, il se nie lui-même. Attendez, ce sont des lois hypothétiques, hein. Actuellement, on est en train de construire des tas de modèles hypothétiques aussi et virtuels, où les constantes sont différentes, on les teste, etc. C'est pas la nécessité de ces choses-là est hypothétique. Alors, bien, ce qui est impressionnant, c'est que c'est cohérent. Mais tout est cohérent, les quatre champs de force sont cohérents, c'est vraiment impressionnant. Plus on avance, et plus on réussit à réunir sous une pensée qui semble assez unique, des choses très très variées. Mais cependant, ça pourrait être autrement. Alors, si ça pourrait être autrement, Dieu qui a fait ces choses-là, fait une exception, donc il ne change pas les lois de la nature, mais il fait une exception pour montrer qu'il est là. Oui. Puisque nous, nous ne sommes plus assez attentifs au spectacle de l'univers, oui, et puis et peut-être à l'écouter intérieurement, ce qui est encore plus important, eh bien, il fait signe, attends, là, si tu cherches la vérité, si tu cherches, si tu es ouvert, c'est par là la direction. Alors, tu suis ou tu ne suis pas. Mais c'est ça le miracle, c'est pas plus. Hein. Si tu cherches la vérité, la direction est par là. Et il y a une raison proportionnée. Et alors, il faut bien se rendre compte que le miracle, en fait, c'est le père Lagrange qui insiste là-dessus, le miracle, il vient dans le monothéisme. Parce que si vous êtes animiste, ou si vous êtes, si vous voulez... Parce que le miracle suppose qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers et des natures qu'on puisse au moins connaître. Mais on connaît en gros la nature des choses, l'eau, le machin, etc. Et donc, quand il y a quelque chose qui est au-delà de leur nature, ça nous impressionne. Mais si vous êtes à dire, derrière n'importe quoi, le café au lait, etc., il y a un djinn, un dieu, un esprit et tout, à ce moment-là, tout est directement divin, entre guillemets. Divin au sens polythéiste ou animiste du terme, vous voyez. Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait un dieu et qu'il y ait une nature stable. Mais, donc, c'est déjà quelque chose d'assez élaboré. C'est pourquoi les miracles, vous en voyez dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, mais pas tellement en dehors. Hein. Parce que c'est pour faire signe à des gens qui disent, bon ben, il y a une cause du monde, est-ce qu'elle me parle? Et de fait, on va voir que Dieu, en effet, est intervenu et a parlé. Alors, maintenant, un élément très important, après avoir parlé de la notion du miracle, comment est-ce qu'on peut discerner cette action directe de Dieu? Mais c'est très important, voyez, d'insister sur la consistance de la nature, voyez. Le christianisme insiste beaucoup sur le fait que la créature existe. L'homme existe. L'homme est une personne, l'homme a une dignité. Et pourquoi le christianisme, pourquoi actuellement il y a une crise religieuse assez universelle? C'est parce qu'en fait, il y a un mépris de l'homme absolument extraordinaire. Hein, en fait, l'homme n'a plus... On parle de la dignité de l'homme, mais moi j'ai rarement vu qu'elle soit si basse. Hein. Une dignité qui n'atteint pas la vérité, c'est une dignité complètement relativiste, une dignité proclamée par le droit positif et non pas affirmée par le droit naturel, etc. Si on affirme vraiment qu'il y a une consistance dans la créature, alors à ce moment-là, le christianisme est la réponse. Parce que l'homme est debout devant Dieu et il y a une alliance qui fait ou qui ne fait pas. Mais il est debout devant Dieu. Il n'est pas son esclave, simplement, ou bien il n'est pas quelque chose qui va se fondre ensuite en Dieu, comme dans certaines philosophies extrêmement orientales, ou dans certaines formes d'hindouisme. Le but étant de perdre l'illusion de sa personne et de retourner dans le Maya, dans le grand dans le tout, si vous voulez, voilà, que nous sommes une étincelle de Dieu. Mais en fait, je ne suis pas en face de Dieu, je suis Dieu moi-même. Vous n'en êtes pas rendu compte. Hein. Et c'est ce que pense. Et c'est pas si. C'est assez extraordinaire, mais il y a des centaines de millions de gens qui ont une conception de la religion beaucoup plus proche du panthéisme que du monothéisme. C'est-à-dire, nous sommes des éléments divins. Nous sommes des éléments, et alors nous-mêmes nous sommes dans l'illusion, parce que nous croyons que notre personne a de l'importance, elle n'en a aucune. Il faut chasser le désir, nous dit Sakyamuni, Bouddha, il faut chasser, l'écraser, arriver à mourir au désir, et puis pour que notre personne meure elle-même, et qu'on retrouve ce que vous appelez, vous, les occidentaux, le paradis, mais qu'on pourrait très bien plutôt appeler le néant. Les bouddhistes qui passent par la transformation intime, qui se consument par le feu, ils n'ont pas conscience d'aller vers la vision de l'autre. Donc c'est quand même des religions, Jean-Paul II l'a montré dans son livre Entrer dans l'essence, sont totalement métaphysiquement incompatibles avec la religion chrétienne qui s'est développée avec l'instrument philosophique de la pensée grecque, comme Benoît XVI l'a rappelé à tous. Donc nous sommes debout devant Dieu, il y a Dieu qui existe et il y a nous qui existons. Et nous connaissons en gros notre nature, enfin pas très bien, mais on sait au moins ce qu'on ne peut pas faire, quelque chose qu'on ne peut pas faire. Bon, et à ce moment-là, le miracle entre en jeu. Alors quelles sont les circonstances qui vont nous permettre de dire, il y a un miracle? Parce qu'on peut toujours nous dire, oui, mais c'est parce qu'on ne connaît pas tout. Demain arrivera un super Einstein, un super Heisenberg, qui va nous trouver la conciliation de la mécanique quantique et de la relativité générale, et on va avoir des trucs hyper géniaux, Et ça va être, c'est pas, on n'est pas encore tout à fait, on approche, mais bon. Ça va arriver, enfin, je le souhaite. Enfin, bon, moi, je suis ça d'assez loin parce que j'ai perdu la pratique, mais ça me passionne. Bon, ça, c'est très intéressant. Mais attendez, il y a des choses qui ne marchent jamais. Là, je vous ai donné deux petits exemples un peu idiots. Hein, oxygène et hydrogène, ça ne donne jamais du chlore. Enfin, essayez, nombreuses fois, jamais. Si vous semez du blé, ça ne donne jamais des roses. À moins qu'il y ait un mec qui soit venu mettre des roses pour me contredire. Mais là, ça, je suppose qu'il m'a espionné au café-café avec la bande qu'on lui a filée. Mais voilà. Donc, il y a quand même des choses, on connaît quand même un petit peu les limites. Les éléphants, habituellement, n'ont pas des crocodiles. Enfin, c'est plutôt assez rare. C'est bien. Même si on admet, sans que ça soit démontré, si on reste ouvert scientifiquement à une possibilité d'évolution qui n'est pas encore démontrée. Moi, j'avoue que ça me ferait moins peur que certains d'autres, mais de ne pas démontrer. Et en ce cas, ça ne fera jamais que l'éléphant soit un crocodile direct. Voilà. Donc, il y a des limites. La raison, c'est parce qu'en fait, la raison se rend compte, vous voyez, qu'il y a des choses qui sont le propre de Dieu. Et qu'est-ce qui est le propre de Dieu? L'être. C'est pour ça que l'être est intéressant. Les gens ne s'intéressent pas à l'être, mais ils ont tort, parce que le chemin de Dieu, c'est l'être. Et si les gens ne vont pas vers Dieu, c'est qu'ils ont perdu le sens de l'être. Kant a ouvert la mort de la métaphysique, si vous voulez, et juste après, il y a Carstuel, on recueille les dividendes avec la mort de Dieu. Un siècle après. La fin de la métaphysique, c'est Kant. Ça paraît par Descartes et compagnie, mais la mort de Dieu, ça suit. Et maintenant, on est à la mort de l'homme. Bon, évidemment, mon schéma est un peu brutal et je conçois que les philosophes ne sont pas forcément d'accord, mais c'est un peu pour les stimuler. Voilà. Alors, en fait, moi, mon idée, c'est vraiment que l'accès à Dieu, par la raison naturelle, c'est par la saisie de l'être. S'il n'y a aucune saisie de l'être, aucun accès à Dieu n'est possible par la raison naturelle. Aucun. Bon, j'ai écrit une thèse de 348 pages, enfin 417 avec les annexes. Ça coûte que 48 euros, elle est publiée chez Brun, qui est quand même une consécration. Et vous comprendrez les 10 premières poches. Bon. Sauf madame qui est professeure de philo. Mais bon, je suis quand même content qu'il y ait quand même un traduit publié chez moi, c'est plutôt marrant. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu produit l'être. Et la création produit, si vous voulez, les modifications, les phénomènes que nous observons, etc. Tout ça, c'est très bien engendré. Mais fondamentalement, il y a une chose qui est l'effet direct de Dieu, c'est l'être. Donc dès que vous avez quelque chose comme ça en jeu, production de matière, voilà, transformer immédiatement l'être, remettre une âme dans un corps, ça touche à l'être. Parce que l'âme et le corps sont unis dans l'être. C'est pas une union purement physico-chimique, ça a des effets physico-chimiques. Mais la mort métaphysique, c'est non seulement à 3 heures dans ses choses à pas, d'accord, mais c'est beaucoup plus. La mort métaphysique, c'est l'âme n'est plus dans le corps. Donc vous avez quelque chose qui est un peu particulier, qui est l'âme, et puis vous avez un cadavre qui n'a de nom dans aucune langue, et vous n'avez pas d'union dans l'être. Donc si à nouveau l'âme revient, c'est une union dans l'être, seul Dieu peut faire ça. Voilà. Et ça, on le sent. Hein. Multiplier la matière, par exemple, ça, essayez un peu, hein, vous n'y arriverez pas. Alors j'y discuterai avec les physiciens après, sinon nos objections sont la physique. On ne peut pas multiplier la matière, ni l'énergie, strictement pas. Bon, donc les choses comme la résurrection, la multiplication de la matière, ou un changement réel subit, de l'eau en vin, hein, eh bien ça peut être qu'un effet propre de Dieu. Alors vous voyez, vous avez déjà donc deux conditions. Une première, je viens de dire, une autre, je vais l'annoncer, qui sont dans l'ordre physique. Vous avez une transcendance de l'effet. Transcendance, ça veut dire que c'est au-dessus. Je m'excuse, mais pas, j'emploie des mots, peut-être que vous ne les comprenez pas tous. Mais je ne peux pas descendre. Bah, en gros, vous suivez quand même. Enfin, vous ne pouvez pas, dans les questions, noter les mots si je dis des mots qui. Parce que je suis un peu embêté, je ne veux pas descendre trop bas. Parce que quand j'étais petit, je me suis cassé les pieds à écouter des choses trop simples. Quoi. Et je me suis juré que quand je serais grand, j'essaierais de faire un peu monter les gens. Quoi. Non, enfin, bon, que vous comprenez au moins la moitié de ce que je dis, quoi. Enfin, peut-être même les trois quarts. Donc, ça va, vous avez remboursé votre chouette sous votre bière. Non, mais je me suis dit, il ne faut pas faire des trucs sur là, parce que sinon, ben, ça ne sert à rien, quoi. Attends, les gens, ça, c'est pas motivant. Bon, alors voilà. Donc, transcendance de l'effet. L'effet est au-dessus, vous avez un truc, vous avez de l'eau, puis après, il y a du vin. Bon, ben, tenez, vous avez beau. Et vous passez pas par la vigne, pas par les vinifications, ben, toc, en l'espace de 15 secondes, quoi. Et constaté, quand même, par des tas de témoins, dont des ennemis, qui vivaient encore quand Saint-Jean a écrit, hein. Enfin, on revient à l'historicité de l'évangile. C'est hyper attesté, ces trucs-là. Alors après, on peut dire c'est le diable, c'est le machin. C'est pour me tromper, machin. D'accord, tu peux dire ça. Mais tu peux pas dire que c'est pas, ça ne s'est pas passé. Et même les juifs ont pas dit. Bon. Alors voilà. Donc, transcendance des faits et liberté. Quelle est la caractéristique du miracle? C'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de conscience. À Lourdes, tous les miracles, par exemple, parce qu'il y a eu 67 miracles canoniquement reconnus à Lourdes depuis le début, eh bien, la conscience, c'est qu'il n'y en a pas. Par exemple, si vous voyez un miracle, là, si vous allez à Lourdes, moi je connais quelqu'un, mon grand-père, est allé à Lourdes parce que bon, ça l'a aidé à retrouver la foi, et il a vu sous ses yeux, je ne sais pas si le truc a été constaté ensuite comme miracle, enfin au moins médicalement inexplicable. Dans certaines circonstances, à un moment donné, et bien essayer de refaire le lendemain à la même heure avec les mêmes gestes, il dit tiens, c'est marrant, mais il n'y a pas de miracle aujourd'hui. Et bien non, ça ne marche jamais comme ça. Et alors que justement, dans les choses scientifiques, vous mettez toutes les mêmes conditions, vous obtenez le même effet. Si vous ne l'obtenez pas, dites intéressant, je dirai au patron, à 2h du matin, quand j'entrerai, il y a un point aberrant sur la courbe, et justement, on va prendre une autre théorie pour expliquer. Vous voyez, parce que tout doit rentrer, justement, c'est ça la science. C'est qu'avec un ensemble de circonstances, vous avez toujours le même effet. Alors le problème, c'est qu'on ne domine pas toutes les circonstances, d'accord. Vous voyez, c'est ça. Donc il n'y a aucun déterminisme, il y a une liberté absolue. Ça semble indiquer qu'il y a une cause libre. Alors là, vous avez donc transcendance de l'effet, liberté de la production. Et ensuite, vous avez les circonstances qui permettent de discerner ça par rapport aux ignorances scientifiques, aux illusions diaboliques, aux hallucinations collectives et tout y quanti. Et alors là, bonjour l'exigence de l'Église pour le discernement des miracles. Ici, j'ai noté un chiffre. À Lourdes, il y a eu des millions de gens, des millions de malades qui ont été à Lourdes. Des millions. Des millions. C'est un des lieux où il y a plus de gens avec le lieu où il y a eu le Padre Pio et le Mont-Saint-Michel. À San Giovanni Rotondo aussi, il y a à peu près autant de monde par an, un million. Bon, à Lourdes, on est fait des dizaines de millions de personnes, dont un bon tas de malades. Bon, il y a eu 2000 guérisons jugé inexplicable par le bureau médical de constatation, où il y a des médecins agnostiques, athées, etc. qui ont dit, on donne notre langue au chat, c'est inefficace. 2000, bon, en 150 ans. Et bien sur les 2000, il y en a 67 que l'Église a reconnu canoniquement comme miracle. Alors, est-ce qu'on profite, est-ce qu'on est trop exigeant? Non, c'est très bien. Parce que bon, 67, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas, je sais qu'il y en a des vrais miracles qui n'ont pas été reconnus. C'est pas grave, c'est pas une usine à miracles, mais on y va surtout pour prier. Et on y va malgré l'esthétique de la Sainte Vierge avec des trucs horribles où quand vous l'agitez, vous avez de la neige qui vous dit. Malgré ça, on garde la foi, c'est à mon avis, c'est un miracle de l'eau. Non, mais ça, c'est faut pas négliger cet aspect-là. Quoi. Mais donc, on n'y va pas pour ça. Mais alors, 67, mais pourquoi? Parce qu'il y a des circonstances, vous voyez. Comme le miracle est un signe, si vous avez simplement un truc bizarre, ben c'est un truc bizarre. Un truc inexpliqué, c'est inexpliqué, point. Comme le miracle est un signe pour la vérité d'une doctrine, on regarde. Est-ce qu'il y a eu une prière doctrinalement irréprochable? C'est-à-dire, parce que je connais moi de la doctrine, est-ce que le gars commençait à invoquer Belzéboub ou dire, vu que 2 plus 2 égale 42, oh maman mouche truc, etc. Le mec commence comme ça, vous pouvez arrêter et aller avec votre truc et continuer le film ailleurs. Hein, le mec n'est pas intéressant, quoi. Voilà, il dit des hérésies, vous voyez. Bon, vous qui êtes catholique, si vous voyez un gars qui, soi-disant miracle qui se produit sous vos yeux avec une hérésie caractérisée qui nie l'Immaculée Conception, eh bien vous pouvez savoir que ça ne marche pas. C'est pas un miracle, si vous êtes catholique. Hein. Si vous n'êtes pas catholique, vous ne savez rien, mais vous avez de la raison, vous avez un miracle et le gars commence à nier le caractère personnel de Dieu. Ben, vous pouvez passer ailleurs, c'est faux. C'est faux parce que le vrai, le faux. Dieu est personnel, donc s'il y a un soi-disant miracle, il y a que je ne sais pas comment. Vous voyez, la doctrine certaine discerne le miracle douteux. C'est une des grandes phrases de Pascal. Donc la partie de la prière doit être quelque chose de bien, quoi. L'enfant prie, voilà, Jésus, lui, il disait directement, quelquefois il ne priait pas. On va voir, c'était spécial. Mais quand c'est un thaumaturge, d'habitude, il prie. Mais il prie en ne disant pas des conneries, quoi. Il prie en disant des choses justes. Bon. Ensuite, il a une certaine moralité. Vous voyez, il peut arriver qu'il y ait des méchants ou même des prophètes de l'ennemi comme Balaam, etc., qui fassent des miracles, mais à ce moment-là, Dieu prévient. Donc là, je laisse de côté le cas du prodige ou du miracle fait pour le bien par quelqu'un qui est mauvais. Mais habituellement, le thaumaturge a une sainteté qui est remarquable, qui est moyenne et plus que moyenne. Parce que vous voyez, par exemple, quand vous avez des thaumaturges qui désobéissent à la hiérarchie, alors actuellement il y a beaucoup de miracles qui sont en discernement, enfin des candidats miracles. Si vous avez le thaumaturge qui désobéit, qui va se confesser à des prêtres qui n'ont pas les pouvoirs, qui maintient ses trucs malgré que l'évêque du lieu a dit de faire ça, on arrête, c'est fini. Ça ne sera pas enregistré comme miracle. C'est assez simple, hein, vous savez. Ensuite, bon, moralité éminente du thaumaturge, conséquences morales et religieuses bénéfiques. Si après les miracles, le type commence à faire la quête et c'est par ici la bonne soupe, alors c'est un des problèmes, il faut vraiment écarter les gens parce que les gens vous bazardent le fric sur les voyants, donc il faut faire gaffe. Mais c'est un des trucs, si vous voulez faire canoniser quelqu'un, faites attention à ce qu'on lui donne pas trop dedans, quoi. Parce que sinon, c'est pardon les histoires. Hein. Bon, ou que le gars, il est de plus en plus pourri, de plus en plus orgueilleux, qui croit qu'il est le maître du monde, comme dans les finales des BD de mon enfance. Dans mon enfance, il y avait des BD où ça se terminait toujours par le récit du gars, juste avant qu'il vienne être libéré, avant d'exécuter sa victime, il lui racontait comment il allait devenir le maître du monde. C'est assez marrant. Mais donc le gars, à cause de ses miracles, il pense qu'il est très bien. Oui, mais ça peut servir aussi au prêtre, au confessionnal, quand il y a quelqu'un qui vous dit qu'il pense qu'il a des locutions angéliques ou qu'il a des inspirations, qui arrive. Hein. Il faut tout de suite voir les conséquences qu'il en tire. Moi, je pose la question, je dis bon, eh bien, et même faire esprit de passer, vous voyez. Et si la personne insiste comme un truc vachement important et qu'on le vexe parce qu'on n'écoute pas, c'est déjà pas bon. Et ben, j'entends mon ange qui m'a dit, ben, très bien, et ensuite, qu'est-ce que vous avez ajouté comme péché? Éventuellement, je reviens après. Parce que bon, l'ange peut parler, il n'y a pas de problème. Si Dieu dit, c'est des anges qui se foutent, c'est très bien. C'est pas un vrai problème. Mais si la bonne femme devient, attendez, mon ange, attends, t'écoutes pas mon ange, c'est que t'écoutes. Et puis, il y a madame Mittel qui ne veut pas croire que j'ai chanté mon ange. Bon, là, les conséquences ne sont pas bonnes, vous pouvez écouter ça, c'est pas bon. Même si c'en est un, on s'en fout. Comme c'est Saint-Jean de la Croix, il vaut mieux écarter des vrais trucs et tomber dans l'orgueil. Saint-Jean de la Croix lui repoussait même des choses qu'il pouvait être entendu pour être sûr de faire son avis. Bon. Et il faut que ce soit conforme à la dignité de l'homme. Vous voyez, on va voir dans les pseudo-prodiges qui se mettent en parallèle parfois avec le christianisme, c'est grotesque. C'est des trucs, il y a un rabbi qui est contredit par un autre, donc il se croit insulté, il lui fait couper la tête miraculeusement, et il se rend compte qu'il s'était trompé, il s'excuse, la tête revient. Donc, moi je reviens, mais... Ou alors des rituels. Alors les mecs qui aiment bien la magie, faites pas de la magie, hein. Ni blanche, ni... Non mais attendez. Quand je vous dis des trucs, parce que j'ai des trucs, c'est des raisons. Parce qu'on commence à tourner les tables, après il y a un mec qui vous propose la magie blanche, après la magie noire et tout, et une fois que vous êtes là-dedans, bonjour pour vous en sortir. Et attention, vous allez en baver. Hein. On se fait attraper par des trucs. Et... Alors pourquoi je vous parle de la magie? Oui, les rituels. Il y a des rituels qui lient le diable aussi. Pour la punition des crétins comme vous, qui préfèrent faire de la magie ou de consulter leur horoscope, que d'aller à la messe en semaine. Bon, et il y en a plein dans le monde actuel. Pas beaucoup de gens qui pratiquent, mais il y a des tas de gens qui vont voir l'horoscope, le machin, le truc, et une crédulité absolument hallucinante qui est un châtiment de Dieu. Et parfois, par exemple, pour les histoires, moi ça m'est arrivé deux fois dans la rue, enfin moi une fois, un des jeunes de ma communauté, d'avoir des personnes qui nous ont abordé, des jeunes femmes, qui nous ont parlé sans nous toucher, disant qu'elles étaient passées à l'islam, parce qu'elles étaient catholiques au début, enfin moins sociologiquement, disons, et elles avaient besoin d'un exorcisme, du moins elles pensaient-elles. Et les prêtres ont refusé de les exorciser. Du coup, elles sont allées trouver des chers, des gars qui ont des formules, des machins. Alors le pire, c'est que parfois ça peut marcher pour un temps. Hein, parce qu'il y a des formules auxquelles le diable est tenu. Mais ce qui est intéressant, quand vous regardez un peu, du moins ce qu'on peut en saisir de ces trucs-là, c'est que c'est vraiment abracadabra. Ça n'a ni queue ni tête, et c'est quelquefois, c'est mauvais moralement, c'est gluant, c'est contre la dignité. Si vous voulez, quand vous voyez les miracles de Jésus, lève-toi et marche. Tes péchés te sont remis, paf, guéri. Mais c'est ça pareil, hein. Le gars, il est là avec son rituel, il tourne ça dans tous les sens, il fait de la potion, la cornule, machin, tous les trucs dans les films d'horreur. Et le mec, après, qu'est-ce qu'il fait comme effet? Il fout une odeur de crapaud. Mais tu attendais, au lieu directement bouffer de la cuisine écossaise, de la prime de. Du lag, je sais pas, on te pose une touche. Bon, donc, vous voyez, alors là, quand on a tout ça, hein, la conformité à la dignité, c'est très important, parce que le miracle, il est pour l'homme, vous voyez. Et si le miracle diminue l'homme, le miracle, il n'est pas un tour de passe-passe pour humilier les gens. Hein. Il est une ouverture pour ouvrir les cœurs. Une voie qui se montre pour les cœurs ouverts. Bon. Alors voilà. Donc voilà. Et on arrive donc à une chose, c'est pas une démonstration, c'est une preuve indirecte. C'est-à-dire que si un miracle a l'appui d'une doctrine, parce que c'est toujours l'appui d'une doctrine, si un vrai miracle, ben la doctrine ne peut pas être fausse parce que Dieu se contredirait. Si c'est un vrai miracle, Dieu est intervenu pour appuyer ce qu'est en train de dire le thaumaturge. Donc, vous voyez, il y aura une contradiction. Mais ça, c'est une preuve indirecte. On ne voit pas la connexion entre le signe et la vérité. Quand vous démontrez le théorème de Pythagore, ou quelque chose comme ça, de nécessaire, eh ben, vous voyez la solution. Même si au début, vous dites, ouais, c'est intuitif. Vous voyez, si vous ne voyez pas, vous n'avez pas compris. Dans la science, on voit. Au moins, la vérité du principe. Quoi. Bon. Est-ce que dans le miracle, on ne voit pas? On ne voit jamais. C'est pour ça qu'il y a toujours un caractère un peu irritant. Et c'est aussi pourquoi on peut éluder le miracle. Le miracle, vous voyez, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui serait. Il y a un miracle, le type a dit ça, donc si tu ne crois pas, t'es un salaud. Ok, ça peut être le cas. Hein. Ça peut aussi être un salaud, mais bon. Mais c'est pas. Il n'y a pas une espèce de conséquence mathématique. Hein. C'est pour ouvrir le cœur avec le cœur qui est travaillé par le Saint-Esprit pendant ce temps-là. Donc, il y a une certitude indirecte, une preuve, si vous voulez, certitude morale. C'est pas une démonstration métaphysique, c'est une certitude morale. Le gars qui voit le miracle, ben, il a une certitude physique. Hein. Le type qui a vu Lazare, excusez-moi, il connaît Lazare par cœur, Lazare est mort, sans mauvais, 4 jours, hein. Et puis Lazare sort avec ses bandelettes, on va bouffer une pizza, enfin un couscous. Attendez, Lazare est ressuscité. Et les mecs, les ennemis de Jésus ont bouffé avec lui après. Donc attendez, là il n'y a pas de doute, il l'a vu. Donc certitude physique, mais moi j'ai la certitude morale à cause de Saint-Jean. Saint-Jean a écrit un récit qui a tous les critères historiques, je ne vais pas vraiment les détailler. Mais donc je crois moralement que Lazare est ressuscité. Bon, ça c'est une certitude quand même solide, vous voyez. Mais alors, une chose qu'il faut bien maintenant remarquer, vous avez des choses qui dépassent la nature, donc des choses physiquement au-delà des forces de la nature. Vous avez une liberté complète dans la production de l'effet. Les miracles sont toujours imprévisibles. Et vous avez les circonstances morales qui sont les plus importantes, et religieuses qui sont positives. Alors là, on peut dire, bon, Dieu est intervenu. Mais attention, le miracle, c'est quelque chose d'externe. Et le miracle est une aide externe à une pression interne du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. J'ai mis une citation tout à fait importante du Vatican I, qui est rapportée par le catéchisme de l'Église catholique, qui rappelle qu'il y a une action du Saint-Esprit dans les âmes pour les ouvrir leur cœur à Jésus-Christ. Et ça, c'est capital, et ce que je ne comprends pas bien, que les cathos, confirmés, ou prêtres, ou évêques, ne réfléchissent pas à ça. Quand un catho va pour donner le Christ à un autre, d'une façon ou d'une autre, par son exemple, par un papier, par une conférence, autre, eh bien, dans le cœur de l'autre, le Saint-Esprit pousse le gars vers le Christ. Quand un témoin de Jéhovah vient pour me faire brève et me faire faire un quart d'heure, avec les arguments qu'on connaît par cœur des 144 000 et tout ça, le Saint-Esprit ne pousse pas dans mon cœur pour que j'adhère au témoin de Jéhovah. Vous voyez un peu la différence? On ne peut pas être catholique et dire il n'y a pas de différence. Le prosélytisme, comme on dit, enfin l'apostolat catholique, c'est pas sur le même plan que le prosélytisme mormon, je suis désolé. Parce qu'il y en a un qui est au service d'une chose qui est fausse, bien qu'elle ait des éléments de vérité, l'autre au service de la vérité complète qui est Dieu, qui existe, hein, ça c'est tout à fait important, et qui cherche à m'ouvrir le cœur pour que j'écoute sa parole. Et donc le plus important de l'apologétique, c'est quand vous présentez le mystère de Jésus, le Saint-Esprit fait le même boulot à l'intérieur. Et donc parfois, comme pour mon russe là, qui est devenu prêtre, eh ben, il a lu l'évangile, le Saint-Esprit l'a poussé dedans, il a adhéré au Christ. Bon, mais alors, pour aider ça, ce mouvement fondamental, qui est dans le cœur des gens, c'est pourquoi les gens, quand ils perdent le moral, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi, si vous voulez. Vous voyez, par exemple, moi je suis ici parce qu'il y a des mecs qui ont eu la foi, qui m'ont dit, ben, tu viens à la retraite, et puis c'est marre, et tu vas écouter la retraite, et tu dis, attends, pourquoi j'ai une retraite de Saint-Ignace de Loyola, si tu veux, pour un Dominicain, c'est quand même pas mal, hein. Ben, fils, il y avait un de mes amis qui prenait la vie, et alors on allait à sa prise d'avis. Et alors mon copain, c'était un groupe un peu activiste, enfin pas de gauche, hein, pas vraiment de gauche, mais bon. Et alors on était au troisième whisky, peut-être quelque chose comme ça. Et dit on va tous à la prise d'avis. Je dis d'accord, mais pourquoi on va à la retraite? Alors on va à la retraite parce que là. Et tout le groupe vient à la retraite. Alors troisième whisky, j'ai cédé, je suis venu à la retraite. Mais il a bien fait de me bousculer, parce que moi j'attendais ça en fait. J'en avais marre d'être agnostique, parce que c'est trop dur. Si vous êtes vraiment agnostique. La conséquence logique, enfin, c'est souvent le souci. Puis métaphysiquement, c'est trop dur. Si vous êtes à moitié comme les petits bourgeois, ça va. Mais si vous allez à fond, c'est un petit peu plus. Le Dantec, qui est un des amis, un ami de Jacques Maritain, qui était un athée, mais semble-t-il de bonne foi. C'est assez incroyable, d'une pureté, d'une. Espérons qu'il a trouvé Dieu avant la mort. Mais il disait, pour être un athée logique, il faut nier que l'homme soit une personne. Il faut nier la responsabilité de la personne humaine. C'est incroyable. Il y en a très peu de gars qui vont jusqu'à. Bon, enfin, moi, j'étais content qu'on ait un peu bousculé. Mais Saint-Esprit travaillait, il n'y a pas que le whisky qui a fait quand même. Hein. J'étais lucide. Hein. Bon, c'était du bon whisky. Hein. Mais avec du glaçon et du perrier, comme on l'écoute. Mais voilà. Et donc, voilà, après, c'est plutôt la retraite, la prédication, la compagnie. Mais c'est parce qu'il y a des mecs qui ont pensé que le Christ était vrai plus que mon agnosticisme à la con. Comme clair, non? Et ils m'ont aimé plus que mon orgueil, quoi. Donc les catholiques sont mous, et ça me fatigue, enfin, les mous m'épuisent. Comme disait l'abbé Berthaud, c'est le fondateur de Pont-Calec, c'est l'école dont je vous parlais tout à l'heure, les dominicaines. Et il disait, il est probable que je meure vaincu, mais j'espère bien ne jamais mourir dompté. Donc j'aime beaucoup cette parole. L'abbé Berthaud est tout à fait le profil du cheval. Un homme petit, il n'a pas été dompté. Je peux vous le dire, que je l'ai vu en juillet 68, il est mort en novembre juste après, et le discours qu'il m'a tenu, c'était pas vraiment un discours de boue, quoi. Voilà. Alors, mais le miracle peut être éludé, vous voyez, parce que vous avez le Saint-Esprit qui pousse dedans, mais si vous fermez votre cœur, la preuve externe, enfin, le signe externe ne va pas fonctionner. Vous voyez, c'est assez simple, au fond. Dieu veut le salut des hommes, donc il leur donne des grâces. Alors, comme le Christ est nécessaire, il les pousse vers le Christ. Alors ils vont plus ou moins loin, on ne sait pas où ils s'arrêtent dans le chemin, de bonne foi ou pas de bonne foi, mais Dieu les pousse. qui sont fidèles à une grâce, qui ont une autre grâce, etc. Et pour les aider, il y a des signes. Où il y a un gars qui vient, un missionnaire, qui en donne un bouquin, tout ça. Bon. Et quelquefois, il y a des miracles. Et les témoins de Jésus, ils avaient besoin des miracles, parce que c'était juste tout. Bon. Donc, mais si on a décidé qu'on était fermé, si on a décidé quelque chose qui est contre la nature de l'homme, ben c'est fini. Vous ne pourrez pas rentrer dans le signe qui est propre de l'homme. Le signe, c'est propre de l'homme. Le signe, c'est quelque chose qui vous renvoie à autre chose. Et si vous dites qu'il n'y a rien en dehors de cet univers, ben, va te coucher, allume ta 56e chaîne câblée, tâche de passer les quelques années qui te restent et disparaît dans le grand... En fait, tu vas toujours en enfer, hein, comme rappelait Pascal. Hein. Tu vas en enfer ou dans le néant, ce qui n'est pas franchement mort. Ça, c'est la politique de Pascal, qui est un peu brutale, mais qui a quand même du bon. Hein. Si tu as raison, toi, libertin, tu vas en enfer ou dans le néant. Mais donc, ce gars qui dit, non, il est possible qu'il y ait quelque chose de... qui est quand même logique, quoi. Des milliards d'hommes ont toujours fait ça, que l'esprit existe. Que l'esprit existe et qu'il y a un esprit différent des autres, qui quand même a une responsabilité, qui a fait le monde et qu'on l'appelle Théos, qui veut dire voix. Bon, si peut-être quelque chose comme ça est, à ce moment-là, le miracle va fonctionner. Parce que oui, donc on cherche. Moi, je veux bien aller vers la vérité, où est la vérité? Ah, tac, voilà, je vois une sorte de la charité qui vient me soigner, etc., dans un pays où il n'y a pas de charité. Moi, j'ai eu des exemples comme ça. C'est une sorte de miracle moral, tout le monde cherche son intérêt, quelqu'un qui me soigne et tout, bah, ça fait déjà, ça c'est pas un miracle, mais c'est un indice, hein. Ou la Sainte Vierge qui apparaît sur le toit d'une église, d'un pays musulman, ça arrive, ouais. Ça vous aide à maintenir un peu la pêche, hein. Quand on est chrétien, même quand on est musulman, pour se convertir. Mais c'est un signe, tu cherches la vérité, attends, peut-être qu'elle est pas là, peut-être, ça résout pas tout. Mais attends, c'est un signe, Dieu est très humain, ça, je sais pas comment dire. Vous voyez, Dieu vous casse pas la figure comme ça, parfois ça arrive à Saint-Paul, hein, mais habituellement c'est des signes un peu progressifs. Donc c'est très beau le miracle. Voilà. Et alors donc, j'ai mis la fameuse phrase de Journet, j'ai mis une citation du père Gérard des Lauriers, qui est mon père spirituel, celui qui m'a donné la vie, un des trois hommes les plus intelligents que j'ai rencontrés dans mon existence. Et je vous dirai les deux autres si vous me donnez un peu de bien, là, ça fonctionnait encore. Et donc, on peut se fermer à l'au-delà, oui. Si je suis fermé à l'au-delà, rien, il n'y a aucun recours. Si vous êtes fermé, il y a une autre apologétique, si vous voulez, qui je crois, en général, Dieu emploie la pédagogie de la souffrance. Un type qui est complètement fermé, Dieu le fait souffrir pour qu'il souffre. Ça peut arriver. Ou alors il met fin à sa vie pour qu'il aille moins profond en enfer. Si vous êtes fermé, vous êtes fermé. Et c'est le pire, je vais vous dire. Le pire, c'est d'être fermé. C'est être orgueilleux. Vous pouvez être complètement cool, et vachement avoir plein d'amis, être super, super gentil, et dedans, vous êtes un démon. Enfin, je ne veux pas vous faire trop peur. Hein, mais... Alors moi, je vous dis ça, j'ai 33 ans de sacerdoce bientôt. Il y a des mecs qui sont vraiment chiants, hein, et des femmes aussi, des grenouilles de bénitier, qui sont quatre pieds, quoi. Enfin, là, et qui sont très bonnes, et qui sont des saints. Et puis il y a des mecs qui sont super cool et agréables, et qui sont des démons. Et des femmes aussi. Donc il faut faire sans pas juger sur la mine. Pourquoi? Parce que l'important c'est l'attitude du cœur, c'est pas le tempérament. Vous pouvez avoir un tempérament de feu, puis vous dominez ça. Vous pouvez être mou comme une chic, et puis bah, vous donnez un coup de pied derrière pour avancer, et vous redressez le truc, quoi. Hein? Mais si dedans vous êtes fermé, vous enfermez dans votre moi, vous faites une île pour vous-même, et bien vous faites exactement ce que fait le démon, et vous allez tout droit manger. C'est capital l'attitude du cœur. Donc c'est pour ça que vous voyez, en fait, dans l'apologétique, par exemple, ce qui compte beaucoup, c'est la prière. Vous voyez, c'est quand on entreprend d'essayer de donner le Christ, il faut soi-même être conforme à ce qu'on va. Essayer de raboter les disformités entre nous et le Christ autant qu'on peut, et puis prier pour les gens à qui on parle, parce que c'est l'ouverture intérieure, et elle peut arriver, je sais pas, en prison, elle peut arriver à 2 secondes avant la mort. Vous absolvez un gars, vous passez là. Moi, je suis passé une fois après un accident, et le type venait de mourir. Donner absolution. Moi, je pense qu'il était mort. Et donc, sous condition, s'il était vivant, hein, c'est un bon paysan, brouillard dans le matin, quoi. C'est que justement, grâce aux prières d'une carmélite, son cœur a été ouvert et mon absolution fait qu'il le fait. Donc, c'est très important cette ouverture du cœur. Malheur à l'homme qui cherche des prétextes, car il en trouve. C'est la fameuse phrase de Journet, c'est très important. Au chapitre 9 de Saint Jean, il y a la description de la guérison de l'aveugle de naissance. Alors ça amène complètement cet homme à la foi, du paralytique de naissance, pardon. Ça l'amène à la foi et ça enfonce les pharisiens dans le péché contre le Saint-Esprit. C'est extraordinaire, ce chapitre 9 est vraiment impressionnant. Donc le miracle peut être réalisé. Alors maintenant, est-ce que Christ a fait des miracles? Eh bien oui, il en a fait. Je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique. fait, si on applique la critique historique, vous voyez, parce que, bon, chaque secteur a ses lois, son façon de faire, il y a les sciences dures, il y a d'autres sciences sociales, il y a l'histoire, etc. Mais quand on est dans un secteur, il faut procéder avec le mode de procédé et les règles du secteur où on se trouve. Il y a un protocole d'expérience, si vous voulez. Et l'histoire, il y a des règles pour arriver à la certitude historique. Ces règles maintenant sont connues, elles sont appliquées, elles ont commencé à être vaguement ébauchées avec les premiers historiens grecs et latins. Il y a des grandes règles, la grande histoire a dégagé des critères qui permettent de dire si un texte est historique ou pas. Alors là, je vous en ai mis un certain nombre, mais on n'aura pas le temps de les analyser tous. Mais on en a déjà parlé quand on a parlé de l'historicité de l'Évangile. Et en fait, l'Évangile répond à tous les critères qu'emploie la science profane avec l'analyse, là on parle spécialement des récits de miracles, pour montrer que ces choses-là ont eu lieu. Et un des critères, c'est l'importance que les évangélistes attachent aux miracles. Suivant les évangiles, vous avez 31% à 47% des versets, ce sont des récits de miracles. C'est incroyable. Entre Marc et Matthieu, par exemple, il y a 31% des versets qui racontent les miracles du Christ, donc c'est important les miracles dans la vie du Christ. Si on n'avait pas eu, on ne voit pas comment le mec il aurait pu prendre la moitié du film uniquement dans sa tête, surtout qu'il y en avait trois autres qui écrivaient en parallèle, plus Saint Paul après, plus 500 disciples, plus les juifs qui observaient, qui étaient présents, qui étaient les cousins, et qui étaient vivants au moment où les apôtres écrivaient. Donc c'est très important, vous voyez, un certain nombre de critères comme ça, l'attestation multiple, c'est-à-dire que vous avez différentes traditions, bon, vous avez un texte fait dans une certaine tradition, la tradition de Béthanie, la tradition de Jérusalem, celle de Samarie, celle de Galilée, celle qui vient de Saint Paul, celle qui vient de Saint Pierre, celle qui passe par Saint Marc, on étudie ça en détail, c'est assez compliqué, on voit très bien, par des choses tout à fait rigoureuses, qu'en fait, il y a différents noyaux originels de gars qui étaient estimés des scribes de Jésus, qui recueillaient tout dans leur tête ou sur papier déjà. Parce que la mémoire des sémites est prodigieuse. La mémoire des sémites est prodigieuse. Et donc ils pouvaient enregistrer par exemple tous les psaumes par cœur. Donc l'évangile dans les béatitudes, c'est de la routine. Le chapitre 5 de Saint Matthieu, il pourrait s'y faire en balançant. Et en plus, il y a des moyens mnémotechniques en hébreu. Hein. Donc ils étaient très forts. Donc voilà, attestation multiple et discontinuité. C'est-à-dire que, en fait, Jésus fait des choses originales. Vous voyez. Les apôtres n'ont pas, les évangélistes n'ont pas recopié ce qu'ils ont vu dans l'Ancien Testament, puisque toujours dans l'Ancien Testament, les prophètes disent au nom de Dieu. Parce que Jésus fait des miracles en son nom propre. Et ça, c'est impossible qu'un sémite invente un truc pareil. Et qu'un homme dise en mon nom, hein, pour qu'on sache que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, prends ton grabat, lève-toi et marche, en mon nom, comme ça, ou bien qui chasse le démon d'un seul mot dans la synagogue, tout le monde est baba, sans aucun rituel, sans lire le Pentateuque comme faisaient les rabbins, sans invoquer la puissance du nom de Dieu avec les grandes et belles formules rituelles. Ça, c'est quand même quelque chose de très original qui atteste l'authenticité, la génuité du fait, si vous voulez. Et puis un autre élément très important que les gens, je ne sais pas pourquoi, certains modernes ont du mal à comprendre, alors que déjà les Grecs avaient compris que c'était capital. Quand vous avez un événement qui est raconté par des témoins divers, il est beaucoup plus sûr pour qu'il soit authentique qu'il y ait des divergences dans les détails et dans l'interprétation qu'une continuité mot à mot de HKZ. Si vous êtes trois types à faire la même déposition chez les flics, dans un truc un peu délicat, vous allez avoir un problème dans la garde à vue. Hein. Je vous dis ça tout de suite. Hein. Parce qu'ils m'ont dit que vous êtes mis d'accord. Si vous avez deux pages, 21, 29, 7, presque mot à mot, truc, et attendez, c'est combiné. Par contre, si en gros, hein, y en a un qui était là, l'autre était là pendant l'accident ou l'assassinat ou machin, etc., vous racontez ça, mais vous avez été frappé par tel truc, c'est beaucoup plus fort. C'est déjà, c'est un mot d'Héraclite qui est beaucoup apprécié par le père Lagrange. Hein, mieux vaut accord implicite que manifeste. C'est très profond. C'est un exemple que je trouve très éclairant, j'ai déjà pris la dernière fois en janvier, et je vous le redonne. Vous avez la maman qui meurt, et puis vous avez quatre filles qui racontent des histoires sur leur mère. Quatre filles de la maman qui racontent des histoires sur leur mère. Elles racontent toutes des trucs différents. Et les gens qui les écoutent, les quatre frères qui les écoutent, par exemple, disent « Ah, c'est tout à fait elle. » Ah ben, si on écrit les trucs, après il y a un rationnel qui dit « Mais attends, c'est pas la même personne. » Vous voyez, mais parce qu'on n'est pas frappé par les mêmes choses. Donc si c'est sur les détails et l'interprétation, c'est pas grave. Au contraire, si la pression de la vérité oblige à dire quelque chose qui pourtant est très gênant pour un juif, un gars qui se prétend fils de Dieu, un gars qui fait des miracles dans son propre nom, un gars qui raconte des trucs, il faut le dévorer, c'est le mot grec, sa chair, et boire son sang, ils ont été forcés par le fait. Après, il y a des détails, est-ce que c'était ci, est-ce que c'était ça, est-ce qu'il y a eu multiplication de 500 ou de 600, voilà, peu importe ces trucs-là, voilà. Donc ça, c'est des interprétations diverses. Et puis, une autre chose qu'on appelle l'explication nécessaire, qui est un très beau critère mixte, c'est-à-dire vous avez un ensemble de faits divergents qui est attesté par l'histoire. Et vous avez un peu comme dans l'énigme de la chambre jaune ou bien le train de l'Orient Express, vous avez le détective qui réunit tous les éléments et tout, et puis il s'assoit, hein, il fume sa pipe, c'est là où il a l'idée. J'ai cité ce truc-là dans ma thèse sur l'être, hein, un truc approchant, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que on voit bien que le travail de collection des indices est différent du travail intuitif, qui dirait pneumatique, mais où tout s'ordonne tout d'un coup, mais c'est bon sens bien sûr, ou élémentaire, mon cher Watson. Quoi. C'est que tous les éléments de la réalité sensible arrivent, dans votre esprit vous méditez, vous les reviez, et puis vous avez une intuition, hein, qui est à mon avis l'intuition de l'être, et vous coordonnez toutes les choses. Et puis après vous vérifiez si ça va ou pas. Alors là, l'explication nécessaire, voilà ce qu'il faut coordonner. L'exaltation populaire. Pourquoi est-ce qu'un rabbi, qui était qu'un rabbi, au fond il y avait plein de rabbis, il était de l'école, d'une école modérée, des spirituels, des anawim, c'est un rabbi assez classique au début de Jésus. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a déclenché un enthousiasme pareil, qui a même alerté les flics d'Hérode, les flics de Pilate, les mouchards du Sanhédrin, et quelques autres emmerdeurs, plus quelques amis, plus les patrons pêcheurs, Pierre, Paul et compagnie, enfin toute la Galilée, plus les Grecs des décapoles qui se pointaient, les Romains aussi, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'ils parlaient grec, ils se faisaient traduire si le discours était en araméen. Donc attendez, ça fait un pet énorme, hein, la prédication de Jésus. Et en l'espace de 6 mois, quoi. Comment vous expliquez ça? Premier point. Ensuite, s'il a fait des miracles, ça se comprend. Ben. Considération de Jésus comme un prophète. Tout de suite, on a dit c'est un prophète. Or, la caractéristique du prophète, c'est qu'il fait des miracles. Puisqu'il n'est pas de la race d'Aaron, il n'est pas du pouvoir royal, il n'est pas de l'armée d'occupation, donc pour qu'on l'écoute, attends, on fait un petit miracle, on fait retirer 400 prophètes de Baal, on met de l'ambiance, et comme ça, ça change le ton, le roi va m'écouter. Alors ça, c'est un miracle qui n'est pas très, très gay, mais il l'a fait. Bon. Alors, bon... Donc, considération de Jésus comme un prophète, la foi des apôtres, pourquoi les apôtres ont cru dans Christ? D'abord, ils l'ont suivi, c'est vrai, on voit là, ça, on va voir au mois de mars, le 9 mars, le deuxième dimanche de mars, on verra le truc le plus extraordinaire, à mon avis, qui est la doctrine, qui est le rayonnement de la personne de Jésus. Ils ont vu les miracles, et quand ils ont vu, ils sont tombés à genoux, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur, multiplication des pains, le patron pécheur a dit, attends, ça, c'est du jeu. Donc, ils ont été saisis par la transcendance, et là, ben, vous sentez, si vous voulez, comme un vent d'absolu qui passe, comme vous allez au Mont Sinaï ou au Mont Athos. Il y a des moments d'une grande cérémonie, vous sentez que c'est Dieu qui est là. Quoi. Ben, eux, ils le voyaient, parce que bon, la multiplication n'est pas. La foi des apôtres, pour l'expliquer, s'il n'y a pas de miracle, ben, en plus, c'était des concrets. Hein. Donc, c'était pas des gars qui vont se. C'était pas des gnostiques, c'était pas Philon d'Alexandrie, c'était pas des disciples de Platon, attendez, non. Hein. C'était vraiment des types très concrets. Bon. Et puis, etc., d'autres critères à expliquer. Le lien, la position des pharisiens, la place des récits de miracles. Pourquoi un tiers à la moitié de l'évangile, c'est des récits de miracles? Alors que, je prends un exemple dans un livre que m'a offert gentiment Mohamed Christophe. Donc, c'est moyen, mais enfin, c'est une bonne introduction. D'un gars qui s'est converti de l'islam au christianisme protestant. Alors il analyse et il compare Jésus et Mahomet. Donc c'est de façon très, très simple, un peu comme un amerloque, quoi. Il est égyptien mais il fonctionne un peu comme un amerloque. Donc c'est assez simple, c'est assez facile à lire. Alors il décrit les miracles de Jésus. En revanche, l'histoire islamique ne rapporte que quelques histoires de miracles attribuées à Mahomet et presque aucune ne concerne les guérisons des délivrances spirituelles. Alors que Jésus, 31, un tiers, à la moitié des versets de l'évangile, c'est des miracles. Alors expliquez-moi ça. S'il n'en a pas fait, je veux bien, mais il faut être vraiment dit ça. Alors les apôtres étaient peut-être ballots. Ils étaient un peu exaltés, peut-être, mais l'histoire, c'est difficile à soutenir. Bon. Etc. Ensuite, la position des pharisiens. Les pharisiens n'ont pas dit, il ne fait pas de miracle. Ils ont dit, Lazare est ressuscité, zigouillons Lazare. Et c'est noir sur blanc. Ils ont dit, cet homme fait beaucoup de prodiges, tout le monde va le suivre. Bon. Alors, ensuite, le lien des miracles avec la vue du royaume. Jésus fait toujours des miracles pour montrer que le royaume est arrivé. Vous voyez, quand Saint Jean Baptiste envoie ses délégués parler à Jésus, est-ce que tu es l'Hercoménos, celui qui vient, ou est-ce qu'on doit attendre quelqu'un? Est-ce que tu es le Messie, quoi? Bon, mais évidemment, ils n'ont pas des mots un peu détournés, parce que la connotation politique est telle qu'il ne faut pas déclencher une insurrection, donc c'est un problème un peu délicat. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 5 ou 6 miracles devant les yeux des envoyés. Un boiteux, un aveugle, un paralytique, ça. Et après, il récite Isaïe, chapitre 6, je crois. Hein, les boiteux marchent, les aveugles voient, les paralytiques marchent, etc. Donc, il réalise les prophéties, et en fait, il fait des miracles. Et donc, pour montrer que le royaume est arrivé, comme les miracles étaient un signe du royaume messianique, mais l'important c'est le royaume, et l'arrivée du salut qui fait éruption dans Jésus. Alors ces critères sont convergents, et ils culminent dans le kérigme primitif. Vous voyez, quand les apôtres ont commencé à prêcher, ils ont dit Jésus est le Messie, et il a fait des miracles pour le prouver. Saint Pierre a dit ça, Saint Paul a dit ça, Saint Jean a dit ça, Saint Étienne a dit ça. Vous voyez, partout il dit ça. Alors s'il n'en a pas fait, essayez d'expliquer le truc. Donc par contre, si vous dites qu'il a fait des miracles, tout se met en place. Donc si vous voulez, sur ce critère historique de l'explication cohérente, vous voyez, l'explication nécessaire, on arrive vraiment à une grande solidité historique, une attestation historique des miracles qui est absolument considérable. Et en plus, on peut ajouter, je crois, ça c'est très important, c'est que Jésus a un style particulier, et un style qui correspond au salut qu'il apporte. C'est-à-dire que Jésus ne fait pas de miracles grotesques. D'abord, il n'en fait pas, il en fait beaucoup, mais il n'en fait pas à tire-larigot comme dans les apocryphes. Tous les apocryphes ont été éliminés, en particulier parce qu'il y avait trop de prêtres naturels inutiles. Voilà. Et donc, et de même les prodiges du monde hellénistique, qui sont quelquefois rapportés par Apollonius de Tyane, par exemple, sont des choses très bizarres, et pas à l'appui d'une doctrine. Apollonius de Tyane, peut-être vous connaissez même pas son nom, il n'a pas fondé d'école, il n'a pas fondé de religion, donc vraiment c'est pas un style sobre comme celui de Jésus. Jésus est simple, il est maître de lui, il ne fait pas de prodige punitif, il ne fait aucun prodige punitif. Alors c'est quand même très très frappant ça comme caractéristique. Et puis il fait toujours des prodiges pour le bien. C'est des guérisons, par exemple quand il guérit le paralytique, c'est une guérison, donc c'est pour le bien. Et en même temps c'est pour montrer qu'il peut remettre ses péchés. Donc vous voyez, toujours le miracle est en relation avec le mystère de Jésus. Et ça fait qu'il y a une aura, si vous voulez, qui fait que les miracles passent très bien. C'est pas uniquement pour montrer qu'il est puissant, on voit bien qu'il est puissant. Il fait des miracles, je les continue, il fait des miracles de toute nature, il fait des miracles sans aucune préparation, sans aucune prière dans certains cas, dans d'autres cas il prie, il nous apprend à prier. Il est sur toute la ligne, et Jésus est les miracles sont au niveau de sa personne est au niveau de sa doctrine. C'est vraiment impressionnant de voir cette espèce de cohérence dans l'évangile entre la personne, les miracles et la doctrine. Alors la conclusion, donc, deux éléments de conclusion, un texte de la Cordère, donc il a prononcé ici à Notre-Dame, il y a environ 150 ans ou 160 ans, dans la conférence qu'il a faite sur les miracles, il insiste beaucoup en disant il n'y a pas de fondateur de religion qui peut faire concurrence à Jésus-Christ sur ce chapitre. Où sont donc les doctrines fondées au soleil de l'histoire sur des faits miraculeux? Où est donc dans le monde historique une autre puissance que celle de Jésus-Christ, d'autres miracles que les siens et ceux des saints qui l'ont pris pour maître? Rien ne paraît à l'horizon. Jésus-Christ reste seul, et ses ennemis, en l'environnant d'une attaque immortelle, ne peuvent lui opposer que des doutes, et pas un fait égal à lui, ou même analogue à lui. Vous voyez, je crois qu'il faut faire très attention. L'histoire des religions, c'est très intéressant. Moi, ça m'intéresse depuis que je suis tout petit. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à affirmer le résultat aussi. C'est qu'il y a, moi, plus j'étudie les différentes religions, plus je vois qu'il y a une différence de potentiel considérable entre la vraie et les autres. Et d'ailleurs, je le voyais déjà avant même de savoir quelle était la vraie. Parce que vous avez dit, si Dieu existe, c'est les cathos qui ont raison. Donc, à vrai, c'est quand même frappant. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à trop mettre. C'est vrai qu'il y a des éléments de vérité dans les autres religions. Alors, il faut le rappeler, quand même. Il ne faut pas dire ce qui est faux, ce qui est vrai. Donc, ça, c'est un élément important. Mais il ne faut pas non plus oublier que ces éléments vrais sont des vérités captives dans un bloc d'erreurs qui souvent gênent le rayonnement de cette vérité et que souvent les gens reçoivent. Voilà. Et donc, bien mettre les choses à leur place. Et dans le christianisme, et en plus mettre que même si on met toutes les choses bien, tout ce qu'il peut y avoir de vrai dans d'autres religions qui sont fausses par ailleurs, eh bien il y a quand même une transcendance, si vous voulez, de la figure du christianisme face à la raison que personnellement je trouve extrêmement impressionnante. Donc la conclusion, c'est que les miracles prouvent ce qu'on leur demande de prouver. Le thaumaturge fait des signes à l'appui de la doctrine qu'il affirme. Donc le problème est de savoir qu'est-ce que Jésus-Christ disait qu'il était. Je suis l'envoyé de Dieu. Le miracle prouve qu'il est l'envoyé de Dieu. Et on l'a montré dans le Café Caté d'octobre 2007, donc là je ne reproduis pas tout, mais je renvoie les anciens à leurs souvenirs, et je pourrais envoyer le fichier électronique au nouveau, s'il me le demande gentiment. Voilà, donc là il y a toute la liste des textes où Jésus affirme de façon formelle, quoique implicite, qu'il est Dieu. Donc alors ça c'est un peu un autre chapitre, si vous voulez, hein, l'Église va l'expliciter, le mettre ensemble dans les conciles, mais déjà formellement, dans la confession de foi, de la confession de Jésus devant Sanhédrin, il se fait l'égal de Dieu, il est condamné à mort pour ça. C'est quand même un fait historique tangible. Donc, S'il a fait des miracles authentiques, eh bien ces miracles sont à l'appui de cette affirmation. Alors maintenant la conclusion, ça ne produit pas la foi automatiquement dans vos âmes si vous ne l'avez pas, mais ça vous montre que si je cède à l'attrait du Saint-Esprit qui me pousse vers ça, je vais faire un acte qui va être non seulement surnaturel, mais raisonnable. Et donc, c'est super sympa. Merci de votre attention. Allez-y.
Oui. J'aimerais vous préciser pourquoi le refus des miracles est à l'origine de cet rapidement un problème métaphysique.
Oui. Pourquoi le refus des miracles est un problème métaphysique. C'est vrai que moi j'hésite quelquefois à développer trop, mais moi la métaphysique c'est un peu mon truc, donc j'ai peur de vous larguer un peu, mais c'est vrai, je crois que le problème il est vraiment là. Mais qu'est-ce qui se passe dans un miracle? Vous avez une exception à une loi physique constatée. Donc ça suppose là qu'on constate une loi physique, on constate certainement une exception. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Si vous décidez, vous voyez, qu'il n'y a rien en dehors de l'ordre sensible, à ce moment-là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous dites, je ne comprends pas. Mais si vous dites que la matière est l'expression de l'esprit, par exemple, moi, là, actuellement, qu'est-ce que je fais? Je suis né dans le sud de la Loire, très au sud. Donc, je parle avec les mains. Mais donc, pourquoi je parle avec les mains? Ça fait passer des idées aussi. Quand on posait les arguments, il y a toute la position de la main. Ça aide à... L'homme, les Grecs disent, l'homme est une intelligence qui a des mains. C'est joli, quoi. Vous voyez, il atteint la vérité par le sensible. Et donc, le sensible est au service du vrai qui est spirituel. Et quand vous arrivez à une vérité... Une théorie scientifique, c'est déjà de l'esprit. Quand vous avez une amitié entre les hommes, est-ce que c'est uniquement charnel? Est-ce que l'amour entre les hommes est uniquement des atomes crochus? Bon, c'est d'accord, il y a un aspect sensible, mais est-ce que l'amour entre les hommes, c'est uniquement un attrait sexuel ou un attrait caractériel? Presque tout le monde, sinon il n'y aura aucun art. Je crois que l'art est la preuve que l'esprit existe. Comment peut-on faire de l'art s'il n'y a pas d'esprit? Le fait que je sois ému par un tableau, vous voyez un tableau de Van Gogh avec un paysan qui comme ça, la tête dans la main, vous reculez pour voir, vous voyez, vous regardez ses souliers, rien que ses souliers, pourquoi ça vous sert le cœur du coup là? S'il n'y a pas d'esprit, c'est la misère de ce gars qui a travaillé toute la journée, sa fille est peut-être morte, etc. C'est l'esprit qui passe par là. Donc vous voyez, si vous admettez que cette matière que vous avez sous les yeux est un message de l'esprit, mais Sarah Singer insiste là-dessus depuis 30 ans. Il dit, en fait, le cosmos est un message de l'esprit, c'est divin. C'est aussi un message de moralité. Et si on admet ça, on se dit, attends, l'esprit qui a fait le monde est en train de me faire signe au-delà des médiations habituelles. Oui.
Et donc, pour rebondir sur cette précision...
Parlez fort, hein.
Oui, pour rebondir donc, sur cette précision, qu'en fait, l'esprit est au-delà...
Au-delà de la sensible, et le sensible est au service de l'esprit.
Qu'est-ce qu'on peut opposer comme argument aux scientifiques qui pensent que l'esprit, en fait, c'est un principe d'émergence qui résulte des connexions des axones, etc.
Là, c'est un peu tous les éléments de philosophie tout à fait fondamentaux. Autrefois, il y avait une classe de philo, j'ai connu, moi, avant 68. On apprenait des trucs, comme on apprend aujourd'hui. On insistait sur la différence de nature, si vous voulez, entre l'esprit et la matière. Parce que si vous parlez d'émergence, si vous voulez, tant que vous êtes dans l'ordre, disons, du mouvement, parce que dès qu'un mouvement émergit, là on est dans l'ordre du sensible, hein, Et émergence ou pas émergence, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez rester dedans. Même un ordinateur, moi je me souviens quand j'ai quitté mon unité d'informatique, j'étais pas informaticien, c'est pas un matin. Mais le directeur céramique, c'est un polytechnicien, bon, je lui ai dit, je partais dans la vie religieuse. C'est un catho, mais bon, un catho un peu matérialiste à mon avis. Et il m'a dit, alors vous allez faire tout à fait autre chose, ça n'a plus rien à voir, l'amour, machin. J'ai dit, attendez, oui, quand même, la religion, il y a l'esprit, il y a la pensée, il y a l'être et tout. Ah non, ça n'a rien à voir. Hein. Au ciel, c'est pas avec notre intelligence qu'on verra Dieu. Je viens de me barrer, le mec, il est charme, quoi. Si c'est pas avec mon intelligence que je verrai Dieu, ben, j'arrête, moi. Donc, l'intelligence, elle est. Lui, comme informaticien, je pense qu'il croyait à l'intelligence artificielle, quoi. Enfin, à l'époque, on ne parlait pas de ça. mais on en a. Et là, vraiment, c'est un truc très particulier parce que on se rend compte, vous voyez, que l'esprit a une caractéristique que vous ne trouvez jamais dans la matière. L'esprit est totalement autotransparent. L'esprit peut juger lui-même son acte. Aucune machine ne peut faire. Oui, nous, chez nous, on a, comme tout le monde, on est soumis à l'esclavage ou à l'instrumentalisation de l'informatique. Il y a des pères qui sont complètement littéraires, qui ont aucune, qui sont agacés par l'informatique et qui comprennent pas que la machine ne peut rien faire dès que c'est analogique, quoi. Pour le fichier, pour que ce soit entièrement univoque, et si vous êtes planté dans un paramètre, ça fonctionne pas. Ah, mais pourquoi elle fait ça? Mais elle comprend rien, c'est tellement simple, monsieur et madame et tout, mais la machine, monsieur, madame, bien. Mais la preuve, c'est que, d'ailleurs, Arsac a prouvé ça, un type qui a écrit des livres sur l'intelligence artificielle. Dans le matériel, vous êtes pour ça que la machine qui construit la machine est impossible. Tandis que l'esprit qui conçoit l'esprit est possible. Quand je parle, je saisis la vérité, je sais que je suis en train de saisir la vérité. Et donc je suis dans un autre sens. C'est les fameux trois ordres de passage. Mais évidemment, le problème avec ça, c'est que c'est tellement énorme que quelquefois je me dis comment on peut convaincre celui qui le dit. Parce qu'en général, ce gars-là ne pense pas que sa femme, c'est uniquement un tas d'électrons. Mais quand quelqu'un meurt, pourquoi je suis triste quand quelqu'un meurt, si c'est qu'un tas? C'est son fils. Il y a Claudel qui dit, par exemple, pour la beauté, par exemple, Claudel dit que les choses, si elles ne nous parlaient si bien de vous, hein, si leurs paroles n'étaient si touchantes, nous n'aurions pas de questions, et nous serions en paix avec la rose. Nous serions en paix. S'il n'y avait pas d'esprit, on serait en paix avec la rose, on s'en foutrait de la rose. Mais qui peut être en paix avec une rose qui a une beauté qui meurt? Qui n'est pas ému par une beauté qui meurt? Si vous n'êtes pas ému par une beauté qui meurt, allongez-vous là, je vais vous psychanalyser un peu. Justement. Je suis un peu vache. Mais je veux dire que vous voyez, on sent bien que la beauté, la preuve, c'est que l'art, c'est un langage universel, quoi, qui est au-delà de la matière. Donc c'est là, c'est pour ça que je pense, je vais vous dire, moi je pense que une des clés de du retour enfin, de l'évangélisation, c'est l'assainissement humain des gens. Il faut faire des goûts, il faut arrêter le virtuel, il faut bazarder votre péloche. Il faut faire des trucs normaux, il faut voir des êtres humains, il faut parler entre humains, il faut retrouver des choses. Parce que sinon on est complètement enfermé dans un truc qui n'en sort jamais. Et la métaphysique intuitive que portent les paysans, les enfants, les poètes et tout, cette métaphysique que moi je retrouve souvent quand quelqu'un à côté de moi dans le TGV me dit « Est-ce que vous me posez une question ?» Je dis « Ah, c'est bien, on va faire de la métaphysique. » En général, c'est pendant 1h15, parce que ça faisait Paris, c'est 1h15. Quelquefois, c'est Paris-Lyon, donc c'est mieux. Donc, je crois que c'est un des sujets d'angoisse, c'est comment faire trouver le sens de l'esprit aux gens. Parce qu'au début, je ne pensais pas que ça existait tellement des gens qui vivent l'esprit. Et je crois qu'il y a souvent aussi la voix de l'art, et puis la voix aussi de l'autocontradiction, si vous voulez. Et par exemple, il y a un théorème en mathématiques qu'on appelle le théorème de Gödel, qui a été prouvé il y a 255 de démonstration. Mais enfin, on a prouvé qu'on ne peut pas, si vous voulez, faire un système d'axiomatique mathématique entièrement complet. Donc en fait, ça veut dire que les mathématiques ne peuvent fonctionner que si quelque chose est injecté de l'extérieur. Ce qui est assez extraordinaire, quoi. Et ça a été justement prouvé par des filles qu'on allait faire des trucs complètement autocohérents. Mais nous savons maintenant scientifiquement que les mathématiques ne sont pas fermées. Et nous savons avec Heisenberg que la physique ne sera jamais totalement autodémontrable. Donc je dirais ça, c'est pas une démonstration de la métaphysique, mais attendez, ça vous déstabilise un peu. Ça prouve que justement la science ne pourra pas dire tout, quoi. Alors évidemment, là, il y a beaucoup de gens qui se réfugient dans le bouddhisme ou quoi. Nous avons notre réponse. Voilà, c'est un peu effleuré là. Oui. Levez-vous et parlez fort. Oui, conditions de réceptivité, absolument. Oui. Dans le cas du miracle moral, il faut une réceptivité encore plus forte. Oui. J'ai pas entendu la fin de la phrase. Ah, attendez, oui, l'objection est de dire qu'il ne faut pas exiger trop de réceptivité parce que le miracle a pour but de rendre réceptif. Donc ça serait un peu insatisfaisant, un peu, on va envoyer un miracle à quelqu'un qui n'est pas réceptif et lui reprocher de ne pas le recevoir parce qu'il n'est pas réceptif. Non ? Ben, je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que c'est une question de gradation, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture minimale sans quoi les choses ne peuvent pas fonctionner pour rien. C'est pour ça que le monde actuel devient difficile, quoi. C'est que n'y a pas cette ouverture minimale du cœur. Mais donc, si vous voulez, pour le miracle, il faut au moins laisser une possibilité à Dieu d'exister, quoi. Mon Dieu, si vous existez, ben, envoyez-moi un signe, quoi. Il y a des gars qui font cette prière. Je crois que c'est elle qui avait commencé à faire Foucault. Si vous existez, daignez m'amener à vous. Alors ça, c'est un petit début. Alors après, il a eu d'autres choses, il a eu des témoignages. Mais je pense que c'est pas contradictoire, parce que c'est pas... le miracle va nous rendre réceptifs à encore autre chose, vous voyez. La réceptivité minimale, c'est la possibilité que Dieu existe et qu'il me parle. Au moins hypothétique, vous voyez. Et je connais pas mal de gens, moi j'avais suggéré à des agnostiques de faire cette prière, et qui ont dit, je la fais pas, parce que je vais être exaucé. Ah ben, c'est logique, hein. Et c'est là où je dis, là, priez pour que leur cœur s'ouvre, parce que si vous êtes vraiment calé, c'est pour ça que je dis, il y a assez peu d'athées, hein. Moi, je sais pas si j'étais athée ou agnostique, hein. J'en discutais avec Adjad, qui lui-même était athée ou agnostique, mais on n'a pas réussi à savoir ce qu'on était, parce que le mal n'est pas très lumineux, quoi, donc... Mais des athées vrais, il y en a assez peu. Parce que vous voyez, je crois, la personne, si elle prie pas à Dieu, pourquoi elle prie pas si Dieu vraiment, elle est sûre qu'il existe pas, elle n'existe rien, quoi. Donc, si vous voulez, il faut une ouverture minimale pour nous conduire à une autre ouverture, etc., qui nous amènera au Christ, à l'Église, avec des étapes ou directement, ça dépend des personnes. C'est très très varié. Très varié. Oui, Benoît. Parlez fort. Hein. Oui. Oui, absolument, oui. Oui. Oui, mais oui, que Dieu puisse faire des miracles pour pour la part de vérité de certaines religions qui ne sont pas entièrement vraies. Et alors à ce moment-là.
Ça montre quand même la voie à la personne.
Oui. Non, ça, les miracles qui ont été comme ça ont montré la voie vers l'Eucharistie. Pas vers l'orthodoxie en tant qu'elle était coupée de Rome. Parce que quand Dieu utilise un thaumaturge non catholique, si vous voulez, non, il y a un ensemble d'autres signes qui permettent de voir clairement que le miracle est fait pour la partie de vérité qu'il soutient. Oui. Alors que chez les Arméniens, moi je connais un peu les Arméniens, et ils ont été loin, ils étaient tellement loin, ils ne savaient même pas s'ils étaient séparés de Rome ou pas. Bon ben Grégoire de Narek, il était calcédonien d'ailleurs, qui est le père un peu spirituel de l'Église arménienne, et il y a des saints autour de lui. Alors il faisait des miracles en faveur de la doctrine de Calcédoine. Est-ce qu'ils étaient en communion concrète, et c'était tellement loin avec le pontife de Rome, on n'en est même pas sûr historiquement. Et c'est pas gênant qu'il y ait des miracles pour la doctrine calcédonienne contre les hérétiques tombratiens et quelques autres, ou contre les musulmans qui les entouraient, pour amener les gens à la vérité chrétienne que proposait Grégoire de Narek. Et puis il faut dire aussi que les orthodoxes, on est quand même assez cousins. Parce que le miracle est un signe pour la vérité d'une doctrine. Hein. C'est pas, si vous voulez, le miracle n'est pas le Deus ex machina qui règle tout. Quoi. Et c'est pourquoi l'Église l'utilise avec... il fallait des miracles, je veux dire, il fallait beaucoup de miracles autour du Christ, pour une raison que Pascal souligne, qui est très intelligente, c'est que les prophéties commençaient à se réaliser. Vous voyez. La prophétie centrale, c'est que le monde entier, enfin disons distributivement, hein, des gens dans le monde entier, vont adhérer à un monothéisme intérieur, spirituel et universel par un fils de David. Ça prévu 900 ans avant. Alors, attendez, comme prophétie, c'est énorme. Hein. Ben, attendez, à la fin, les plus vieux apôtres, ils l'ont vu. Hein, disons, Saint Jean, tout gâteux, il a vu le monde, parce qu'on était arrivé en Éthiopie, on était arrivé aux colonnes d'Hercule, on était arrivé jusque chez les Écossais. Enfin, donc le monde entier était connu. Mais au début, il fallait des miracles, parce que la preuve fondamentale pour Pascal qui les prophéties, parce que c'est énorme, on ne se rend pas compte, c'est la conversion au monothéisme, vrai, pur, spirituel, intérieur d'une religion d'amour, par un descendant de David, un homme déterminé, concret, fils d'une vierge, etc. Tout ça était prophétisé. Donc cette prophétie-là, maintenant, elle est réalisée, c'est pourquoi saint Thomas dit, il n'y a plus besoin de tellement de miracles. On verra, si on parle de l'Église l'année prochaine, que l'Église véhicule des éléments de ce miracle. Mais au début, pour que Jésus monte et commence à réaliser cette prophétie, les miracles étaient très utiles, et il y en a eu toute une profusion. Mais il y en aura toujours encore suffisamment pour maintenir l'ambiance et pour faire les procès canoniques les gens qui intéressent. Moi, une fois, on m'a demandé de recenser le texte, une retraite qui était faite sur des pères de l'Église et les textes d'une vision non approuvée que je ne nommerai pas. Et c'est vraiment un type qui s'est élevé dans un mouvement nouveau qui m'a demandé ça. Alors, j'ai fait la censure des mouvements, des textes de lui, et j'ai dit quant au texte de X, l'apparition, je les laisse de côté pour la commission canonique. D'ailleurs, c'était des pures banalités, vraiment pas très intéressantes. Ça ne m'a pas convaincu, cette apparition était très authentique. Mais il y a toujours une commission canonique avec des types pointus qui vont lire les textes.
Moi, ce qui m'a frappé dans les miracles de Jésus, d'abord, je suis terminant. Moi, pour moi, si Jésus n'avait pas fait de miracle, je crois que je ne serais pas converti, je ne serais pas devenu chrétien.
Alors, il faut dire que Christophe était musulman, ouais, était converti au catholicisme.
Ah, il a fait 40
via,
ans.
Via les évangéliques.
Et d'ailleurs, je suis frappé encore aujourd'hui quand je vois dans la révélation qu'il fait à Moïse, la première chose qu'il va demander, c'est qu'il n'attend pas d'être auprès de ses frères hébreux, et lui-même qui pose la question à Dieu, mais comment ils vont me croire? Et c'est donc par ce signe, par ces miracles, que Dieu prouve qu'il vient bien de lui. Et le passage que vous citiez sur... De Saint Jean sur l'Anneau de Vernet. Et également, d'ailleurs, il fait référence à cette. Les pharisiens disent que nous croyons en Moïse parce qu'il a fait ce qu'il a apporté d'ici. Et cet aveugle de dit, mais n'est-ce pas un signe Or, on sait que Dieu ne donne pas de miracle, ne fait pas faire de miracle par quelqu'un qui ne vient pas de lui. Et là, alors, vous l'avez dit d'ailleurs, dans l'islam, le seul miracle qu'on peut apporter à l'appui de Mahomet, qu'il est renvoyé de Dieu, c'est la fameuse inimitabilité du Coran, qui ne tient pas la route, évidemment, parce que le Coran lui-même, deux fois, dit, il essaie d'expliquer pourquoi il n'y a pas de miracle apporté par Mahomet. Donc, c'est extrêmement important. Je suis venu pour la première fois et je tombe sur quelque chose qui est important. Je pense que pour les musulmans, c'est important le fait que Jésus est attesté par ses miracles qui vient bien de Dieu. Mais ce qui m'a fait le plus réfléchir, en fait, par rapport au miracle de Jésus, c'est le fait qu'il n'a jamais été contre la liberté de l'homme. Il ne fait pas de miracle pour casser ou pour subjuguer la liberté de l'homme.
Ça, c'est très très important. C'est vraiment quand Jésus est humain que l'on voit vraiment dans l'action de Jésus. C'est pour soutenir un mouvement intérieur. Ouais,
par exemple, le jeune homme riche, il ne le force pas à croire. Hein. Il a la possibilité de réaliser des miracles, mais pas sur la liberté de l'homme. Et c'est pour ça que c'est là aussi. Je suis renvoyé à l'islam, dans lequel on nie la liberté de l'homme, et la preuve que justement elle est indispensable, c'est que Dieu respecte cette liberté.
Merci de votre témoignage.
Qui confirme sa réponse.
Joseph.
Oui, une petite remarque sur les philosophies. Concernant les philosophies, en fait.
Joseph est redoutable des philosophes comme vous, madame.
En fait, on constate que toute la philosophie moderne, en fait, Kant, religion dans les limites de la simple raison, Spinoza, traité théologico-politique, Hume, et évidemment on ne parle pas des autres qui viendront après, toute la philosophie moderne est profondément, entre guillemets, anti-miraculeuse. Elle s'oppose au miracle. Alors donc, ces philosophes modernes n'ont cessé de dire. Finalement, le miracle, ça n'existe pas parce que la nature est la nature et parce que la nature ne peut pas déroger aux règles à ses propres règles. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec les temps modernes et l'âge de la science dans lequel nous vivons, nous, aujourd'hui, c'est que malgré l'a priori philosophique, en fait, Dieu n'a cessé de faire des miracles. Que ce soit en 1858 à Lourdes, que ce soit un peu avant à la rue du Bac, que ce soit en 1917 à Fatima, que ce soit avec le Padre Pio, j'ai une photo de la main stigmatisée du Padre Pio, je vais la faire passer. Cet homme a vécu avec les stigmates de Christ, de Jésus, de 1918 à peu près, de 1968 à sa mort. Et donc, la stratégie nouvelle de la philosophie, cette fois moderne, enfin post-moderne, c'est finalement de ne plus en parler. C'est-à-dire qu'avant on disait, ça ne peut pas exister, c'est irrationnel. Maintenant, on n'en parle plus. On n'en parle plus parce que, en un certain sens, le fait est là. Avant on disait, il n'y a pas de fait, et en effet on peut. Pourquoi, tout ça appartient sans doute à une conscience primitive, pré-scientifique. Le mythe, le miracle de Jésus, l'aveugle à rendre la vue à un paralysé, etc. Tous ces gens-là étaient un peu exaltés, etc. Et pouvait raconter les miracles de saints au Moyen-Âge, quand on sait, les sens de l'imagination, on peut douter. Eh bien, nous autres, en fait, qui appartenons à la relation, bien, quelqu'un comme le Padre Pio a été examiné.
Oui, le Padre Pio, c'est complètement attesté. 50 ans de vie entièrement miraculeux.
Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? On dit, c'est d'origine psychique. Et le problème, c'est que quelqu'un qui a, en effet, il y a des conversions hystériques, c'est-à-dire des productions de symptômes sur le corps en fonction des désordres psychologiques, mais quelqu'un qui est un saint, justement, tous les saints, tous les grands mystiques ont le sens du réel. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas en fonction d'eux-mêmes par rapport à un complexe narcissique, un complexe d'égocentrisme, que les hystériques en effet peuvent somatiser. Ils ont le sens du réel parce qu'ils sont ouverts à l'autre, parce qu'ils sont d'abord ouverts à Dieu et à Jésus, et ils ont le sens du réel parce qu'ils font des choses. Alors qu'il y a une très belle formule de Foucault pour définir la folie, il dit « la folie c'est l'absence d'œuvre ». Quelqu'un de fou, en fait, il ne produit pas, il ne fait pas quelque chose en fonction du réel. Or, tous les grands mystiques, que ce soit Thérèse d'Avila ou Padre Pio, ce sont des gens qui, par exemple, Padre Pio, c'est à San Giovanni Rotondo, dans une des régions les plus pauvres d'Italie, il n'y a rien. Il y a maintenant un des plus grands hôpitaux modernes d'Italie. C'est immense d'ailleurs. Vous voyez, la maison de soulagement,
la rêve est assurée pour le faire des catus, je veux
dire.
Alors, quelle est la pointe de l'argument?
Alors, la pointe de l'argument.
C'est qu'on est dans une phase favorable, là.
La pointe de l'argument, c'est que justement, il faut chercher, parce que il y a une sorte de silence, une chape de silence, puisqu'on n'en parle pas. Donc, il faut chercher, chercher, vous trouverez la vérité. La vérité n'est pas inaccessible comme on croit et comme pense la postmodernité et Nietzsche en particulier. Donc, la vérité,
merci. Antoine. D'accord. Oui, vas-y. Les nouveaux ont plein de questions, c'est bien.
Est-ce que dans l'histoire, il y a eu des périodes dans lesquelles il y a eu beaucoup de miracles ou moins, et est-ce que les miracles apparaissent un peu partout dans le monde ou il y a plutôt des régions
un peu partout, oui. Un peu partout, et il y a des périodes où il y en a plus. C'est vrai que le début de l'Église, il y en a eu beaucoup. Ou les périodes où on a plus besoin, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce que dit Joseph. Mais c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui on en a besoin aussi parce qu'on est quand même assez délaissé par des structures qui sont matérialistes, etc. Et qui sont un peu des structures de péché, quoi. Donc il y en a, c'est vrai qu'il y en a peut-être plus aujourd'hui. Moi je ne suis pas super à chercher toutes ces choses-là, mais je pense que Joseph a raison, il faut les chercher parce qu'il y en a plus et ça nous fait des signes. Alors est-ce qu'il y a des moments où il y en a, vous voulez dire dans l'histoire de la chrétienté ou dans l'histoire de la chrétienté? Ben écoutez, il y en a partout. Si vous pensez à la dévotion de la Vierge, dans tous les pays du monde, vous avez des sanctuaires nationaux ou régionaux ou locaux qui sont consacrés à la Vierge et dont l'origine est habituellement, enfin fréquemment miraculeuse. Donc, il y en a suffisamment pour. Parce que vous voyez ce que dit saint Thomas d'Aquin, c'est que Pie XII va citer cette phrase de saint Thomas. On n'a plus besoin d'une prophétie pour nous enseigner la doctrine qu'on a déjà, mais on a besoin d'une prophétie pour redresser les mœurs. Et souvent la prophétie pour redresser les mœurs, comme dans les miracles comme à Lourdes, la Sainte Vierge donne un message comme à Fatima. Moi j'aime beaucoup Fatima. Donc je crois que c'est vrai qu'il a des raisons, il a une période plus féconde. Il y a eu des études très... Jean Digri, qui est un spécialiste du XVIIIe siècle, a écrit un livre sur les miracles de cette période-là. Et il y en avait au 17e, 18e en France, et ça beaucoup qui ont été constatés de façon très rigoureuse. Mais c'est vrai, je crois qu'il relève les formes qui sont adaptées aux besoins de l'époque. Et c'est vrai, je pense, à mon avis, le suaire est au moins une relique authentique et probablement un miracle. Enfin, donc il y a des choses qui nous sont adressées, adaptées pour aujourd'hui. Pas le répillon, c'est le sacerdoce, la messe, la confession, avec le miracle évident, enfin, des stigmates. Et moi, j'ai connu des gens qui l'ont vu. Enfin.
On oublie Marc Robin, hein, c'est quelque chose d'un phénomène.
Voilà, donc il y a des signes suffisamment. Alors, il y a peut-être dans l'apostolat, il y a, je crois, un juste milieu en fonction des tempéraments. Il y a des gens qui vont être plus attirés par ce que je veux dire le 9 mars, et d'autres, plutôt, il faut les engager par avoir un choc, par un contact avec une matière du surnaturel, etc. Oui, les niveaux ont plein de questions.
C'est pas directement en rapport parce que je sais pas, ça peut avoir le statut de miracle, mais la question du déluge vient-elle invalider la perfection de la création que Dieu a voulu effacer et recréer derrière? Donc en fait, c'est quelque chose qui me travaille depuis un certain temps, je profite de vous poser la question.
Il faut peut-être que je réfléchisse avant de vous répondre. Je pense pas, parce que les lois fondamentales de l'univers n'ont pas été différentes après et avant. Même si on en est que le déluge a été total ou partiel, etc. Enfin bon, peu importe l'application qu'on fait exactement, les lois de l'univers fonctionnaient avant, après, mais il y avait une telle masse de péchés que bon, elle a été châtiée de façon spectaculaire. Et Dieu a quand même mis l'arc-en-ciel, parce qu'on parle de la révélation faite à Adam. Hein. Il y a Adam, Noé, Abraham, Moïse. Et la révélation de la Chine concerne tous les hommes. Hein. Et donc là, il y a eu. Une assurance de Dieu que l'humanité ne sera jamais détruite malgré tous les tsunamis et tous les tremblements de terre. Mais c'est quand même les mêmes lois physiques qui gouvernent. Donc je pense que c'est plutôt de l'ordre moral, si vous voulez, que de l'ordre physique. Le châtiment a été tel que, de même que vous voyez le 20e siècle, enfin, vous êtes né tout à la fin, moi je suis né au milieu, quoi, comme Christophe. Le 20e siècle, il y a un auteur brésilien qui l'a appelé le siècle du néant. C'est un siècle particulier. La masse d'horreur qu'il y a dans ce siècle-là, dans les totalitarismes, les atrocités, c'est quelque chose d'hallucinant, je crois qu'on a fait le calcul même. Et des martyrs aussi, le nombre de martyrs qu'il y a eu au XXe siècle, je crois qu'il y en a plus que dans tout le reste de l'histoire de l'Église là-bas. Donc c'est un siècle bizarre, quoi. Mais il y a des périodes, mais est-ce qu'on peut dire que Dieu a changé par rapport à l'humanité? Je crois que c'est plutôt l'humanité qui arrive à des choses exponentielles dans le mal ou dans le bien. Parce qu'on a des saints exponentiels, quoi. Saint Thérèse de Lisieux, c'est une sainte exponentielle, en fait. C'est prodigieux, prenez un autre image. Mais on a, je crois que l'idée de Saint Louis-Marie, qui est mon patron, que j'aime bien, c'est que le mal va croître, mais le bien aussi. Et on a de plus en plus des séides de l'Antéchrist qui sont de plus en plus abominables, des Pol Pot, des Hitler, des Staline, des machins, et puis des Saintes Thérèse de l'Enfant Jésus, des Padre Pio. Donc c'est plutôt l'attitude morale de l'humanité. Moi je suis frappé, si vous voulez pas, je lis assez souvent, j'ai lu beaucoup de récits de Goulag, de Laocaille, de Candinavie, etc. Parce que je pense que l'homme mis à l'extrême dévoile ce qu'il est. Et c'est quand même ça l'initie, ça passionnant, quoi. C'est quand même incroyable que le XXe siècle ait fait des trucs pareils. Le degré de mal auquel l'homme a pu arriver ne peut être contrebalancé qu'à mon avis que par un degré de bien qui est donné par la Sainte Vierge. Enfin, c'est l'idée de Maximilien Kolbe et de Louis-Marie et de Saint-Vincent Ferrier, aussi les saints des derniers temps. Je pense que c'est tellement difficile aujourd'hui qu'il faut une espèce de naïveté mariale et il faut vraiment se consacrer à la Sainte Vierge. C'est pas Notre-Dame de Kabylie qui va me contredire.
À propos de Marie, il faut savoir que quelqu'un a dit de la Vierge dans le Coran que c'est une citadelle ou un cheval de Troie. C'est quelque chose qui ne correspond pas du tout au reste du Coran, mais elle est là, elle est présente et ils ne savent pas quoi en faire. Donc, vous l'islamisez, vous êtes toujours. Donc, certainement, on est dans une époque où Marie va apparaître plus en plus. Vous parlez d'apparition, justement, au mois de décembre, elle est apparue à des musulmans, bien sûr à des chrétiens.
Au Caire.
Oui.
Comme il y a 20 ans.
Comme il y a 20 ans, oui.
comme impressionnant. C'est le bon moment, parce que nous sommes en
fait. Ah oui.
D'autres questions? C'est bien, ça va être. Donc la prochaine fois, c'est le deuxième mardi à cause des vacances. Ah, une question?
Il peut y avoir des miracles dans des pays monothéistes?
Je pense pas, je pense qu'il peut y en avoir partout. J'ai dit qu'en fait, l'élaboration conceptuelle de la notion de miracle suppose le monothéisme, soyez Dieu et une nature qui est connue par l'homme. Mais je pense, moi, que Dieu cherche les gens partout et qu'il fait des signes partout. Donc, pour les amener au vrai, autant qu'ils peuvent le connaître. Alors là, c'est assez complexe. Mais c'est plus difficile à discerner parce que quand vous arrivez, par exemple, chez un animiste africain, quand vous avez le dieu de la rivière, le dieu de ceci, le dieu de ça, ben c'est Dieu qui agit, quoi. Donc il fait ça ou il fait. Il y a une espèce d'arbitraire, il n'y a pas de loi. Les lois naturelles ne sont pas tellement connues ou intéressées. Donc c'est plus difficile. Mais je crois qu'il y a au moins des signes qui sont donnés à tous les hommes de bonne volonté. C'est vrai que c'est un sujet assez passionnant, comment Dieu peut atteindre des gens qui ne sont pas atteints par les missionnaires. Je crois qu'il y a des miracles.